Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bonjour à vous et bon réveil. Nous sommes le dimanche 3 octobre. On est ensemble pour notre matinale week-end CNews Europe 1 avec tout pour vous informer. Nos invités, nos débats, nos rendez-vous politique, culture, santé et société. Sans oublier, bien sûr, la météo de votre week-end très pluvieuse. C'est même diluvien en Loire-Atlantique, mais moins catastrophique que ce qu'on redoutait. On ira à Carquefou. Vous écoutez Europe 1, il est 7h. On est ensemble pour 2 heures d'infos en direct en compagnie d'Elisa Lukaski pour les JT. Bonjour Elisa, j'accueille également sur notre plateau Philippe Doucet du Conseil national du Parti Socialiste et Jonas Haddad, secrétaire départemental adjoint Les Républicains de Seine-Maritime, puisque juste après votre journal, Elisa, on reviendra entre autres sur l'accélération de la campagne au rythme d'Éric Zemmour qui a encore franchi un cap hier en meeting à Lille. Je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Nous irons aussi dans cette édition en Loire-Atlantique après une nuit très agitée, de fortes pluies. Vous allez voir des coupures d'électricité, une centaine d'interventions. Vous nous direz tout ça, Elisa, en détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'alerte rouge a été levée. Et puis, avec notre invité, à 7h30, nous reviendrons sur cette lutte sans fin des habitants de quartiers ravagés par le crack. Vous verrez que ça ne concerne pas seulement Paris, mais également d'autres villes, comme par exemple Bordeaux. Elisa, l'information, c'est bien sûr ces pluies qui frappent la France, notamment l'Ouest depuis hier.
Oui, 22 départements qui sont toujours en alerte orange. La vigilance rouge en pluie, inondation en revanche, était levée pour la Loire-Atlantique où les cumuls de pluie ont été conséquents. Hein. Plus de 98 mm à Nantes, l'équivalent de 32 jours de pluie. Au Pèlerin, autre commune, l'équivalent de 28 jours. Parmi les autres départements touchés, on retrouve le Morbihan ou encore la Sarthe ou la Mayenne. Mais direction tout de suite la Loire-Atlantique. Hein. Retrouvez notre envoyé spécial, Mickaël Chailloux. À Carquefou, c'est la commune la plus touchée du département. Mickaël, on a eu peur d'avoir des gros dégâts, mais décrivez-nous la situation sur place.
Oui, ça s'est plutôt pas trop mal passé, on va dire, cette nuit. 103 interventions des pompiers enregistrées en Loire-Atlantique, notamment sur les communes du Sud-Loire au sud de Nantes, essentiellement pour des caves inondées. Pas de victimes à déplorer, c'est bien l'essentiel. Seuls les réseaux de circulation sont touchés. Le périphérique nantais est dévié et il vaut mieux se renseigner avant de prendre le train. ERDF annonçait hier soir à 23h 917 foyers privés d'électricité. Et tout le monde devrait être rétabli avant midi. Il est tombé jusqu'à même 102 mm sur la commune où je me trouve, Carquefou. 102 mm sur cette commune au nord de Nantes, c'est quasiment un mois de précipitation en 12 heures. Il faut dire qu'il a plu quasiment en continu depuis hier matin, samedi, à partir de 10 heures. En Vendée, à Beauvoir-sur-Mer, avec la marée haute, l'eau avait du mal à s'écouler. 5 personnes ont dû être évacuées selon la préfecture, évacuées préventivement car l'eau montait jusqu'à 80 cm dans la rue. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin avec la marée basse, l'alerte rouge. Je vous l'avais dit, en Loire-Atlantique, a été levé à 6h ce matin.
Merci beaucoup Mickaël Chailloux pour ces nouvelles plutôt rassurantes après cet épisode qui était inquiétant. Après la tempête Alex qui avait fait des ravages cette fois dans le sud-est de la France. Elisa, on parle évidemment de politique. Éric Zemmour était en meeting à Lille hier.
Oui, une séance de dédicace aux aires de meeting. Hein. Éric Zemmour qui était au palais des congrès de Lille pour parler de son dernier livre. Mais l'échange a pris des allures de rendez-vous politique. Si l'écrivain et polémiste n'est toujours pas déclaré candidat, celui qui fait figure de troisième homme de la présidentielle dans les sondages n'a pas boudé son plaisir de voir qu'il bouscule la vie politique actuelle. Gauthier Le Bret, Boris Nicolas et Inès Yael Kahn.
C'est un week-end très économique qui se conclut à Lille pour Éric Zemmour. Après avoir déjeuné vendredi avec 300 chefs d'entreprise à Valenciennes, son discours ce samedi était consacré quasi exclusivement à l'état industriel du pays. Éric Zemmour dresse un constat catastrophique de la situation économique.
Votre magnifique tissu industriel du Nord s'est liquéfié comme un glaçon en plein soleil. Et comme d'habitude, quand c'est le Nord qui paye, c'est toute la France qui en vérité s'appauvrit. C'est toute la France qui s'est désindustrialisée.
Troisième homme de la présidentielle dans un récent sondage, Éric Zemmour se rapproche de plus en plus d'une déclaration de candidature à la présidentielle. Il le sait, s'il ne se lançait pas, ses sympathisants le prendraient comme une trahison.
Je sens bien cet enthousiasme qui serait fort déçu si jamais j'y allais pas. Ça fait partie de mes réflexions aussi et de ma décision. J'en tiendrai compte pour ma décision.
Éric Zemmour va continuer son tour de France. Le week-end prochain, il sera en Corse. Et lundi, à Paris, il débattra avec Michel Onfray au Palais des Congrès.
Éric Zemmour crédité de 15% des intentions de vote. Il arriverait devant la droite de Xavier Bertrand, premier candidat LR du sondage. Les Républicains qui désigneront leur candidat en congrès en décembre. Une organisation tardive que n'a pas manqué de commenter le polémiste hier.
Ils sont partis pour trois mois là d'embrouilles et de combines. Donc bon, ils vont s'amuser entre eux, on va les laisser. Hein. Nous, on a rien contre l'amusement. Hein. Après tout, chacun trouve son plaisir comme il veut. Moi, je joue au tennis. Bah, eux, ils jouent au congrès. Bon, bah voilà.
Celui qui n'est pas encore candidat inquiète. Hein. La majorité présidentielle, La République En Marche, qui tient son campus de rentrée tout le week-end à Avignon à 6 mois de l'élection présidentielle. Et là-bas aussi, on a parlé du polémiste. Écoutez, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui n'a pas mâché ses mots.
C'est que nous ne devons sous aucun prétexte laisser le pays dans les mains des aventuriers. L'aventurier du grand soir, qu'à titre personnel j'aime bien écouter parce que j'aime bien les grands orateurs, mais j'aime pas la démagogie et j'aime pas la mégalomanie. L'aventurier du repli, du rejet, du racisme, qui cite les grands auteurs comme certains font de la prose, mais qui donne des boutons aux historiens. Non, monsieur Zemmour, il ne suffit pas de citer Talleyrand toutes les trois phrases pour faire de vous un homme d'État. Il occupe aujourd'hui un terrain qu'on connaît bien, qui est un terrain qui a été occupé longtemps par la famille, que dis-je, la famille, la dynastie Le Pen, et qui a fait son fonds de commerce sur la xénophobie et le repli sur soi. Moi, j'appartiens, à l'inverse, à une génération qui n'avait pas honte de crier « La jeunesse emmerde le Front National ».
Vous voyez qu'on a de la matière pour notre débat dans un instant, juste après ce journal. Elisa, on continue avec la politique. Yannick Jadot qui en dit un peu plus sur son programme, si toutefois il était élu à la présidentielle.
Oui, 4 jours après sa victoire à la primaire des écologistes, il détaille dans les colonnes de nos confrères du journal du dimanche les grandes mesures de son projet. Yannick Jadot qui veut être dans l'action, engager la sortie de l'élevage industriel. 82% des Français sont d'ailleurs favorables à cette mesure. Autre proposition, l'application du taux de TVA selon les produits concernés. Il veut également reconstruire l'économie. Il propose un plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an qui, selon lui, pourrait créer 1,5 million d'emplois.
On en parlait hier de cette manifestation anti-crack à Paris.
Oui, ils étaient autour de 200 manifestants pour dire non aux salles de consommation et de repos dans les zones d'habitation et militer pour une prise en charge durable des toxicomanes. Une semaine après l'évacuation d'une cinquantaine de toxicomanes aux abords du jardin Éole dans le nord-est de Paris, les riverains restent remontés et excédés par le laxisme des autorités qui, selon elles, ne font que déplacer le problème.
On est en train de dire aux drogués, en fait, on va cacher la misère, on va vous mettre derrière un rideau et vous allez pouvoir continuer à consommer. Alors certes, avec des produits stériles, la belle affaire, mais vous allez pouvoir continuer à consommer, à vous enfoncer dans votre addiction. Je pense franchement que la France mérite mieux que ça.
Ils hurlent la nuit, ils sont en bande, ils m'ont menacé de mort parce que je les gênais sur leur point de deal. La peur, il faut qu'elle change de camp.
On nous parle de câliner et de chouchouter les pauvres craqueurs, qui ne sont pas des gens que j'envie, bien entendu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plutôt attaquer ceux qui les fournissent ?
On en reparlera tout à l'heure avec notre invité à 7h30. Merci beaucoup Elisa. Rendez-vous vous aussi pour un nouveau rappel de l'actualité à 7h30. Tout de suite, un coup d'œil sur le temps de ce dimanche avec vous, Claire Delorme. C'est toujours très agité quand même. Hein.
Exactement. 22 départements sont encore en alerte. Pluie, inondation. Par contre, ça va un tout petit peu se calmer donc pour ces régions-là. Après donc la perturbation qui a surtout touché la veille, mais dans un second temps, se met déjà en place ce qu'on appelle un épisode Cévenol. Donc dans l'après-midi, on attend des cumuls très importants. 300 mm, l'équivalent de 30 litres au mètre carré, donc vraiment des cumuls inhabituels qui demandent de l'extrême vigilance, alors qu'à l'arrière quand même ça se calme. Un ciel de traîne avec une alternance d'éclaircies mais aussi de passages nuageux porteurs encore d'averses actives. Dans l'après-midi, les températures avec le passage de la perturbation, ça rafraîchit un petit peu. La minimale sera de 14 degrés à Lille, mais on conserve quand même de la douceur en Méditerranée, avec la maximale de 27 degrés, que ce soit pour la Corse ou encore du côté de Perpignan.
Merci beaucoup Claire, il est 7h10, on va passer tout de suite au débat dans la matinale week-end, CNews Europe 1.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Avec nous sur le plateau pour débattre de bon matin, Philippe Doucet, membre du Conseil national du PS, ancien maire d'Argenteuil, et Jonas Haddad, porte-parole de Xavier Bertrand. Bienvenue encore une fois à tous les deux. On l'a compris, hein, avec le journal d'Elisa, c'est un week-end très politique. On voit que le rythme s'accélère, mais surtout que pour l'instant, celui et le seul qui donne le tempo n'est pas un candidat. C'est Éric Zemmour. Il a encore franchi un cap avec ce meeting plutôt musclé à Lille. Je voudrais vous faire réagir à cette déclaration de Nicolas Sarkozy, qui était en dédicace hier à Paris et qui en dit long sur ce qu'il est en train de se passer en ce moment.
Il est le symptôme de quelque chose. Il n'en est pas la cause. Vous savez, vous connaissez ce proverbe chinois. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bien souvent, on regarde les conséquences et pas les causes. La cause, c'est que tous ceux qui participent au débat public doivent parler plus directement au cœur des Français pour qu'il y ait des vrais débats et qu'il n'y ait pas cette espèce de pensée unique qui empêche qu'on discute de thèmes importants, de sujets importants. Et c'est sur cette absence de débat que prospère une parole qui est assez souvent excessive.
Philippe Doucet, est-ce que le socialiste que vous êtes partage le point de vue de l'ancien président Nicolas Sarkozy ?
Je pense qu'il y a une demande de sens dans la société et que la gauche et les écologistes ont intérêt à balayer devant leur porte, parce que je pense qu'on a intérêt à apporter quelque chose. Et le problème que
c'est pas un peu tard là, pardon, pour balayer.
Non, je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense que on est dans une société tellement rapide. Je pense qu'on peut tout à fait prendre, se saisir. La présidentielle, c'est un moment de coagulation tout à fait particulier. Les gens s'intéressent au débat. Il y a de la demande. L'avantage des chaînes comme CNews, c'est qu'on peut discuter. Et donc il y a cette attente là. Donc si on fait des propositions, si on donne du sens, si on donne des orientations, je pense que on peut. Il est jamais trop tard. Je pense que la présidentielle, cette histoire présidentielle n'est pas écrite. Regardez, on est début octobre, on a déjà Zemmour qui a bousculé Marine Le Pen, qui a bousculé Xavier Bertrand, qui bouscule tout le champ de la droite. On a Yannick Jadot qui a gagné sa primaire à gauche au sein des écologistes. Donc on voit bien que tout ça est très ouvert. Je pense que c'est une présidentielle très ouverte. Après, je pense qu'effectivement, là où Nicolas Sarkozy a raison, c'est qu'à droite, ça va devenir très compliqué, parce que finalement, ce qu'il dit, c'est que ses amis ne disent rien. Ce que Nicolas Sarkozy reproche aux Républicains, c'est bah écoutez, les Républicains, vous êtes sympas, mais vous n'avez rien dit depuis des années.
Alors, Jonas Haddad, c'est ça, c'est vous qui êtes responsable de ce vide dans le débat, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy, et c'est ce que vous dit aussi Philippe Doucet ce matin.
Et je vais vous dire une chose, j'ai l'impression qu'on a une sorte de problème de riches, parce qu'en réalité, dans ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est que la France n'a jamais été autant à droite. Total des droites, 47%. Total des gauches, 28%. Et donc en fait, lorsqu'on parle de marché politique, le marché politique de la droite est plus large en ce moment. Et effectivement, il y a des gens qui essayent de s'insérer dans ce marché politique de la droite. Donc qu'on soit en capacité de venir apporter une réponse à ce marché politique, ce qu'évoque Nicolas Sarkozy assez rapidement, c'est ultra nécessaire. En revanche,
il ne s'insère pas, Éric Zemmour, il est en train de siphonner la droite.
Il est en train de siphonner l'extrême droite. Là où il prend le plus de points, c'est chez Marine Le Pen. Et le soutien de Jean-Marie Le Pen hier, qui dit quand même un truc assez hallucinant, mais on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on rentrera dans ce que c'est que potentiellement la candidature Zemmour, ça montre bien que finalement, ce marché-là qui va aller rapidement du centre droit à l'extrême droite, c'est quelque chose dans lequel effectivement il faut parler plus fort, il faut parler des thèmes qui intéressent les Français. Et c'est ce qu'on a commencé à faire hier avec Xavier Bertrand sur le thème du travail, parce que quoi qu'on en dise, et bien évidemment, on n'est pas des obsédés de l'immigration et on n'est pas monomaniaque comme les monsieur Zemmour.
Le problème, c'est qu'on ne l'entend pas, non, Xavier Bertrand.
Je m'élève en faux, parce que de ce que j'ai vu là dans les dernières analyses électorales, c'est que 20% des électeurs de François Fillon 2017 soutiennent Éric Zemmour, se reconnaissent dans Éric Zemmour, 20% François Fillon, et là c'est pas l'extrême droite. Et deuxièmement, il fait un choix qui peut être un choix, à mon avis, mortel pour vous, mais qui pose évidemment plein de questions à la gauche et aux écologistes, c'est qu'il fait un choix d'être monothématique. Parce que derrière, il a intégré et il porte l'inquiétude identitaire d'une partie des Français. Et donc, aujourd'hui, finalement, il parle fort sur l'inquiétude identitaire. Donc, la question, le marché du travail, ou ce qu'a évoqué Xavier Bertrand hier, franchement, ça ne prend pas. Parce que finalement, il fait un choix de se dire la question idéologique est plus importante que les aspects programmatiques.
En revanche, ce qui ne prend pas, et vous regardez les enquêtes d'opinion depuis 8 mois, nous ne bougeons pas. C'est-à-dire qu'en gros, on dit qu'il siphonne la droite, on est toujours resté entre 14 et 16. Donc c'est un fantasme, je le dis, hein, parce que vous regardez tous les autres sondages, on ne bouge pas. En revanche, ce qu'on peut dire concernant Éric Zemmour, c'est qu'il y a eu un tournant, moi je trouve, ce week-end.
Et c'est pour ça qu'on en parle. Hein.
Nous sommes le 3 octobre, ok? Le 3 octobre, peut-être que nos téléspectateurs matinaux ne savent pas ce que c'est l'anniversaire du texte du statut des Juifs de Pétain. Et on a un candidat aujourd'hui, en 2021, qui vient remettre en cause le rôle du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. On a un candidat qui est soutenu par Jean-Marie Le Pen. On a un candidat qui a autour de lui, des théoriciens du grand remplacement. Mais on va s'arrêter où comme ça? À quel moment quelqu'un qui est multicondamné va pouvoir continuer à faire en sorte de représenter la droite? Vous savez pourquoi à droite on bouge pas? Parce qu'à droite on a quand même des valeurs, on a quand même l'héritage de Chirac, de Gaulle.
Mais est-ce qu'il ne faut pas bouger justement parce qu'on n'entend plus ces arguments face à Éric Zemmour qui prend toute la place?
Mais madame, c'est juste qu'à partir du moment où on demande à débattre avec lui, il choisit ses adversaires, il choisit M. Onfray, il choisit M. Mélenchon, il choisit en réalité des personnes qui sont des marchepieds pour lui. La réalité, c'est que pour quelqu'un qui se dit courageux et très viril, se cacher derrière la possibilité de pouvoir être ou pas candidat, moi je trouve ça ni courageux ni très viril. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je termine là-dessus parce que faut savoir qui est l'entourage d'Éric Zemmour.
Christian Jacob a dit lui-même, votre président de votre parti, que Éric Zemmour n'était ni raciste, ni antisémite, ni d'extrême droite, etc. Raciste et d'extrême droite pour être précis. Président de parti invalide ce que vous dites.
Est-ce qu'il y a un problème de positionnement, de riposte chez les Républicains? Personne n'a l'air d'être d'accord.
Alors je ne sais pas qui fixe la riposte et qui fixe le positionnement. Moi je suis porte-parole de Xavier Bertrand et puis j'ai mon avis par rapport à ce que ça représente la vie politique. Et aujourd'hui Éric Zemmour rassemble au sein de son équipe, et peut-être qu'il nous écoute et je serais ravi qu'il puisse nous écouter, des gens qui étaient chez nous avant Républicains et qui étaient en marge des Républicains, en marge de l'UMP, parce que ce sont des gens qui avaient chez nous des propos qui étaient intolérables. Je pense même à certains qui sont des porte-paroles ou des gens qui sont extrêmement bien placés autour d'Éric Zemmour. Ces gens-là, on les a dégagés de l'UMP et des Républicains parce qu'il y avait des attitudes qui étaient inacceptables. Si l'objectif de M. Zemmour, c'est de faire comme Emmanuel Macron qui recyclait des gens au PS qui étaient un petit peu exclus, c'est de recycler les gens de l'UMP et des gens des Républicains, qu'il le fasse. Mais si c'est sur la thématique de dire que Pétain était un bouclier ou de dire que Jean-Marie Le Pen, c'est formidable s'il a son soutien et qu'il n'y aura pas la diabolisation, qu'il continue à le faire. Nous, effectivement, on a jusqu'au 4 décembre, c'est notre responsabilité de se rassembler. Si on n'y arrive pas, ce sera notre faute. Mais il ne faut pas qu'on s'occupe d'une personne qui est en train de dire choses pareilles.
J'ai juste un problème de calendrier. Le 4 décembre, enfin, je ne suis pas responsable des Républicains. Hein. J'ai déjà suffisamment à faire avec ma propre organisation politique. Mais franchement, d'un point de vue de la droite, attendre le 4 décembre, c'est une tendance suicidaire.
Quand Nicolas Sarkozy parle de vide, est-ce que c'est pas celui-là également?
C'est aussi celui-là, c'est le vide des idées. Le vide des orientations fortes et un vide organisationnel, de fait.
La seule chose que je peux dire, encore une fois, et je ne veux pas être désagréable avec la gauche, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes entre 14 et 15, comme on a été dans tous les autres sondages. Ça n'a pas bougé depuis 6 mois.
Toujours Nicolas Sarkozy, il a dit à Xavier Bertrand, il faut qu'il soit à 18 avant de pouvoir décoller.
Voilà. Et
donc, il décolle toujours pas.
Et comme il voit souvent Anne Hidalgo, à mon avis, lui a dû demander si elle allait dépasser la barre des 5%, qui est la candidate socialiste, puisqu'on se demande même si elle sera remboursée de sa campagne. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème de marché politique à droite. Il y a un marché politique. Effectivement, à nous de monter le son maintenant.
Et à gauche aussi, il faudrait peut-être monter le son, parce que pour l'instant, le seul qui le fait, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Mais bien sûr, oui, mais derrière, par rapport à ça, je pense que Zemmour nous impose, et c'est notre responsabilité, de donner aussi du sens à cette campagne présidentielle. Où est-ce que la gauche, la social-démocratie, les écologistes, où est-ce qu'on veut emmener dans un chemin d'espérance? Parce que la logique du repli identitaire, tout va mal, on va se faire manger, les Arabes vont tout nous prendre, et toute la logique, le fantasme identitaire, qui est une réalité que les gens intègrent, eh bien, nous, à nous de proposer un chemin d'espérance. Ce chemin-là, il est à faire, il est devant nous. Donc, c'est sûr que j'ai bien mon petit balai pour bien balayer devant ma porte par rapport à ça.
Si je vais dans le sens qui vient d'être dit, en fait, pour moi, c'est très simple. Éric Zemmour, c'est un médecin légiste. Il y a un cadavre qui est au sol. La France.
C'est la France qui est un cadavre.
Oui, la France est un cadavre aujourd'hui qui est en grande difficulté. Elle connaît des angoisses identitaires. Il y a des gens qui se posent la question de savoir si la France va vivre ou va mourir dans ce qu'elle a été, dans ce qu'elle a existé. Et on a un médecin légiste qui vient, qui pose des diagnostics cruels. Nous, notre rôle, c'est d'être des médecins urgentistes et plutôt d'être à côté du cadavre et de dire « Oh là là, elle est en train de crever, c'est terrible, etc. » C'est dire « Bah oui, appliquons-lui les premiers soins. »
Mais pour la réanimation, il faut accélérer le tempo.
Exactement. Faisons en sorte que sur l'immigration, on puisse contrôler notre immigration. Faisons en sorte qu'on retrouve des marges de manœuvre dans le travail. Et nous, en fait, on n'est pas des croque-morts.
Vous voyez, on n'est pas des croque-morts. D'ici le 4 décembre, je vous appelle pas parce que si je suis pas bien et que je suis malade, je vous appelle pas comme médecin urgentiste avant le 4 décembre.
J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance du Parti Socialiste.
Non, merci beaucoup Philippe Doucet, membre du Conseil National du PS, et Jonas Haddad, porte-parole de Xavier Bertrand. Merci beaucoup à tous les deux. À suivre un bol d'air avec la chronique Évasion, en compagnie de Vanessa Zah, qui nous emmènera dans un des plus beaux villages de France, à Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau. La matinale week-end.
7h26 dans la matinale week-end, c'est News Europe. On prend la clé des champs juste pour quelques minutes, mais vous allez voir, ça fait un bien fou grâce à Vanessa Zah, journaliste Europe 1. Bonjour Vanessa.
Bonjour Isabelle.
Avec notre chronique Évasion, vous nous emmenez à Cordes-sur-Ciel, un des 5 plus beaux villages de France. C'est sûrement aussi l'un des plus jolis noms.
C'est surtout que c'est aussi un des fleurons des grands sites d'Occitanie. Et puis, c'est le village qui offre la plus belle vue du monde. Ça, c'était les propos de National Geographic en 2020. Mais je vous confirme, c'est toujours le cas. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Cordes-sur-Ciel, on le surnomme le château dans le ciel. Alors, grâce à qui ? Grâce à un réalisateur japonais de dessin animé. Je suis sûre que vous avez trouvé, Isabelle.
Ah, mais avec la musique et tout ça, là, on sent que...
C'est Miyazaki.
Donner des indices, exact.
Voilà, alors il avait trouvé une colline, en fait, pour admirer Cordes. Et il a été subjugué par cette brume épaisse qui flotte dans cette vallée. C'est toujours au petit matin, quand la nuit est un petit peu fraîche et que la journée s'annonce un peu chaude. Et ce qu'il y a de particulier à ce moment-là, c'est qu'il n'y a que la cité médiévale fortifiée qui surgit comme ça de cette mer de nuages, d'où cette image donc du château dans le ciel.
Ah mais du coup, je comprends mieux l'affiche du film, le château dans le ciel, hein, c'est
exactement
ça.
Exactement.
Est-ce que Cordes a inspiré d'autres personnalités?
Alors oui, surtout des écrivains, Jean Giono, Albert Camus qui a résidé, qui a écrit de très beaux textes, et je vous invite d'ailleurs à les lire. Et puis Hector Malot, vous connaissez évidemment Rémi sans famille, et bien le film a été adapté avec Daniel Auteuil il y a quelques années, et il a été tourné à Cordes-sur-Ciel.
Vous nous la faites visiter un petit peu cette
Allez, astuce un tout petit. Alors c'est une cité hors du temps, c'est un voyage à travers les siècles, elle se mérite en fait cette bastide puisqu'il faut grimper, évidemment vous avez toutes ces bâtisses qui pointent vers le ciel et puis une fois que vous êtes arrivé à la place centrale, c'est ça qui est assez magique, c'est que vous avez toutes les rues en fait qui coulent sur les versants de la colline et puis... au détour d'une petite ruelle, et ben, vous avez un petit escalier qui vous permet de passer d'un étage à l'autre. Mmh. Et honnêtement, moi, je vous conseille les visites guidées pour découvrir hein, toute cette architecture médiévale, mais surtout les visites nocturnes théâtralisées. Et vous allez apprendre énormément de choses sur les contes et légendes du Moyen-Âge.
Ça a l'air absolument incroyable de découvrir Cordes par le ciel. C'est possible de faire un survol peut-être en montgolfière pendant qu'on y est.
Très bonne idée.
Miyazaki continue de m'inspirer.
Alors vous êtes parti, donc on y reste. Et alors c'est vrai que bon, c'est un petit coup, mais ça vaut le détour évidemment.
Un petit coup, c'est-à-dire vous avez une idée du tarif?
On est quand même sur des 150, 200, 200 euros. Voilà. Non, on est d'accord. C'est un bon cadeau.
Autant
le préciser, vaut mieux. Et c'est assez magique parce que vous êtes dans une ambiance très cotonneuse. Et puis surtout, c'est l'occasion de découvrir cette petite Toscane à la française. Vous verrez, parce qu'il y a ces domaines de Gaillac, donc ces vignes, ces bastides, ces cyprès. Voilà, c'est un moment un peu enchanteur et un beau lieu du patrimoine.
Eh bien, merci beaucoup Vanessa pour cette belle virée dans le Tarn. Vanessa Zah, journaliste Europe 1, pour cette chronique Évasion qui nous a fait un bien fou. Merci.
Et d'un beau dimanche.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Il est 7h30, très exactement. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette matinale week-end. Les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 3 octobre avec vous, Elisa Lukavski.
22 départements en vigilance orange. La vigilance rouge, à elle, était levée en Loire-Atlantique où une centaine d'interventions ont eu lieu depuis hier. À Nantes, une partie du périphérique a été coupée. C'est justement dans la ville que les cumuls de pluie ont été les plus conséquents. Plus de 98 mm, l'équivalent de 32 jours de pluie. Au Pèlerin, l'équivalent de 28 jours. Autre département touché également, le Morbihan ou encore le département de la Sarthe. Pardon. La politique, avec une séance de dédicace aux aires de meeting pour Éric Zemmour du côté de Lille, le rendez-vous de l'écrivain et polémiste venu échanger autour de son dernier livre avec 1500 sympathisants a pris des allures de meeting politique avec des t-shirts Zemmour 2022 dans la foule, pas officiellement candidat. Il a fustigé la politique actuelle 6 jours après avoir traité les Républicains de chochotte. Eh bien, il a récidivé.
Nos dirigeants se refusent à voir le problème en face. Ils mettent des rustines, ils mettent des sparadraps. Non pas parce qu'ils sont ignorants, non pas parce qu'ils sont cyniques, mais je vais vous faire une confidence, c'est parce qu'ils sont peureux. Ils sont... Je les ai traités de chochottes à LR et ils ne s'en sont pas remis. Mais c'est quand même ce qu'ils sont depuis 40 ans.
Éric Zemmour qui, pour la première fois, selon un récent sondage, dépasse la droite en recueillant 15% des intentions de vote, juste devant Xavier Bertrand à 14%. La droite et les Républicains qui tentent de trouver leur candidat à 6 mois de l'élection. Comment réagissent-ils avec cette nouvelle donne? Élément de réponse avec Élodie Huchard.
Éric Zemmour n'est pas encore candidat, mais il perturbe les stratégies de ses potentiels concurrents. Alors qu'il est en campagne depuis le mois de mars, Xavier Bertrand voit le polémiste le dépasser dans un sondage Ipsos. Une courte avance mais qui relègue le président des Hauts-de-France à la 4e place. Pourtant, pas question pour lui de prendre cela trop au sérieux, ni de changer de stratégie.
Je crois que les Français regardent aujourd'hui, ceux qui s'intéressent vraiment à l'élection présidentielle, 6 mois avant, ils regardent exactement qui est candidat. Et si ceux qui sont candidats, notamment moi qui veux devenir président, si je suis sérieux, si je suis solide, et si je peux leur redonner de l'espoir. Ils ne veulent pas avoir des candidats qui s'agitent dans tous les sens. Ils ne veulent pas avoir des candidats qui deviennent fébriles en fonction de tel ou tel institut de sondage.
En interne, la droite tente de s'organiser. Pas si simple, Xavier Bertrand aimerait être le seul non soumis aux militants du Congrès et ses adversaires n'entendent pas abandonner la course. Déterminés, ils insistent néanmoins sur le rassemblement, comme la présidente d'Île-de-France et candidate Valérie Pécresse.
Il faut que nous nous rassemblions derrière un chef d'équipe et pour désigner ce chef d'équipe, je ne connais pas de meilleur outil que la démocratie.
Le Congrès pour désigner le candidat de la droite aura lieu le 4 décembre.
Les antipasses sanitaires étaient de sortie hier. Manifestation organisée dans toute la France, comme à Paris, où ils étaient 5 300. Mobilisation en baisse, peut-être freinée par la pluie d'ailleurs, puisqu'ils étaient près de 48 000 à s'être mobilisés dans toute la France.
On vient manifester parce qu'il n'y a rien qui va, avec le pass sanitaire, les taxes, comme d'habitude, ils vont toujours augmenter. Ça fait 60 ans que je suis, 63 ans, ils ont toujours augmenté. Alors ils vont pas s'arrêter. Ah oui, ils vont pas s'arrêter, ils vont toujours augmenter. Là, ils ont bloqué, mais ils vont augmenter. Ils vont inventer une taxe, une autre taxe. Taxe sur taxe. On fait que payer, monsieur. Payer.
On ne peut pas perdre les services publics d'un côté et avoir une vie chère au niveau du déplacement. C'est l'un ou l'autre, On s'éloigne de la ville. Nous, on a une densité qui nous permet d'avoir quand même des services publics jusqu'à ce qu'on les ferme en pleine pandémie. Mais à la campagne, vous comptez sur votre voiture pour rattraper l'écart. Donc si le prix devient prohibitif, eh ben vous avez des millions de gens dans la rue. Et là, ils se taisent aujourd'hui, mais je pense que la colère, la difficulté est encore là, effectivement.
J'espère que les Gilets jaunes vont se remobiliser massivement entre l'électricité, le gaz, l'essence. Là, les fins du mois retournent comme il y a en 2018. J'espère que ça va y avoir un petit peu de monde, tout ça, pour pouvoir dénoncer tout ça.
Merci Elisa, on vous retrouve dans une demi-heure pour le journal de 8h. On reparle ce matin d'un sujet qui pollue la vie de nombreux habitants dans certains quartiers. En ce moment, la proximité avec les consommateurs de crack. Désormais, les collectifs de riverains se regroupent pour dire non aux salles de shoot à côté de chez eux. On va en parler dans un instant avec notre invité, mais vous allez voir que le sujet n'est pas sensible qu'à Paris, à Bordeaux, en plein centre historique. Le quartier Saint-Paul est confronté au même problème. Antoine Estève et Jérôme Rampenou.
Des bagarres, des insultes, des menaces contre les riverains. Une cinquantaine de toxicomanes viennent acheter leur dose 4 ou 5 fois par jour dans ces petites rues du quartier Saint-Paul. La présidente des commerçants, Danielle Pandax, se dit désespérée face à cette violence quotidienne.
Ils se couchent par terre, il y a du trafic de drogue, ils se piquent dans la rue. Et puis en plus, ils agressent les commerçants. C'est-à-dire qu'ils viennent vers nos clients et quand le client dit non, ou la personne dit non, ben là, ils deviennent vraiment très méchants.
Jean-Michel habite en face du point de vente de drogue. Il nous explique que la police passe très rarement dans la rue.
La police, quand elle intervient à 12 personnes. Ils nous disent, expliquent d'ailleurs qu'ils interviennent à 12 parce qu'ils sont dangereux. Et puis 10 minutes après, ils nous les laissent à 10 mètres et ils s'en vont. Ils sont plus dangereux.
Pour les policiers, le problème, c'est surtout l'inefficacité de la réponse pénale. Frédéric Folgado-Pires est au syndicat SGP Police.
On attend des renforts supplémentaires en début d'année prochaine, qui nous aideront aussi grandement. Mais c'est compliqué. Ils sont interpellés, mais ils sont remis dehors. Et c'est toujours un éternel recommencement.
90 policiers viennent d'arriver en renfort dans la métropole. Les riverains espèrent qu'une surveillance efficace de leur quartier sera mise en place avant la période des fêtes de Noël.
Nous sommes avec Tarak Sassi, bonjour, merci d'être avec nous, membre du collectif Paris Anti-Crack. On vient de voir ce qui se passe à Bordeaux comme à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu malgré vos manifestations?
Bonjour, je fais encore une nuit blanche, j'habite en face d'un hôtel social. Il y a une jeune dame qui fait des maraudes qui s'appelle Delia, qui a été attaquée par un toxicomane qui ressemble à Ultima Sombra, qui a levé un marteau comme s'il se prenait pour l'otar. Donc, on a dû intervenir. Malheureusement, la police n'est pas intervenue à temps. Nous avons fait ce rassemblement pour dénoncer une situation qui continue, malgré la déportation de l'ensemble des toxicomanes à la Villette. Les quartiers de la Chapelle, de Stalingrad, de Flandre, de Jaurès ne sont pas épargnés. J'avais dit que nous ferions l'annonce d'un rassemblement lundi matin. Nous avons décidé de nous rassembler à la sortie de la station de métro Saint-Philippe-du-Roule, près du ministère de l'Intérieur. Nous demandons à être reçus en petite délégation pour demander des réponses au ministère de l'Intérieur, car cette situation ne peut plus durer. Quand on a fait le déplacement des toxicomanes à la Villette, qui se répandent aujourd'hui dans toutes les portes, et aussi dans le quartier de la Villette, de la Cité des Sciences, il ne faut pas l'oublier. Et on n'oublie pas et on reste solidaire de la souffrance des habitants d'Aubervilliers, de Pantin, mais aussi, aujourd'hui, il faut savoir que les toxicomanes sont remontés jusqu'à Noisy-le-Sec.
Tarak Sassi, qu'est-ce que vous attendez exactement du ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous pensez qu'il va vous recevoir?
Le ministère de l'Intérieur nous snobe depuis très longtemps, comme le préfet nous snobe depuis très longtemps, comme tous les courriers que j'ai écrits à Emmanuel Macron et aussi à un de ses chefs de cabinet, Brice Blondel.
Mais la mairie de Paris, elle vous répond?
La mairie de Paris nous reçoit, mais elle reste ferme sur ses positions. Ça veut dire que ce qu'elle appelle des salles de repos, nous, on appelle ça des salles de chauffe. On n'est pas d'accord avec eux. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'aligne sur la politique de l'hôtel de ville et n'écoute pas la détresse des riverains.
En un mot, qu'est-ce que vous demandez en priorité? Qu'est-ce que vous allez demander demain en un mot, s'il vous plaît?
Demandons avant tout la sécurité. Nous demandons aujourd'hui un encadrement et une réalité aujourd'hui policière qu'on ne voit pas. Nous demandons aussi l'application des peines, parce qu'on a un retour de tous les procès qui sont liés au crack. On a quelqu'un qui suit tous les procès, on a un retour de tous les procès. Et malheureusement, les peines sont inférieures à un an, elles ne sont pas appliquées. Ils attendent les juges d'application des peines et en attendant, ils continuent leurs problèmes. Aujourd'hui, c'est Paris. Aujourd'hui, vous nommez aussi Bordeaux.
Merci.
À d'autres villes, le Hauts-de-France est
merci,
attaqué.
Tarak. Merci beaucoup, membre du collectif Paris Anti-Crack. Votre message est passé ce matin sur CNews et Europe 1. Suivre le cinéma avec Laurie Choleva, on parlera de James Bond. Et puis avec Louis de Ragnel, chef du service politique Europe 1. Vous allez voir que c'est pas vraiment James Bond, mais c'est un film d'espionnage qui se passe en ce moment en France et qu'il nous racontera. À tout de suite.
La matinale week-end, CNews, Europe 1, Isabelle Moreau.
Cinéma dans tous ces états. On parle de cinéma, évidemment, comme d'habitude, avec Laurie Choleva. Bonjour, Laurie.
Bonjour, Isabelle.
Mais quelle est cette douce musique que nous entendons? Serait-ce la musique d'un mythe, d'une légende, d'un certain 007, James Bond, qui revient sur nos écrans mercredi? Tout le monde en parle.
Tout le monde en parle. C'était l'événement cette semaine, la présentation en avant-première mondiale à Londres du nouveau James Bond, Mourir peut attendre. Alors, il faut dire que ça fait un an quand même qu'on attendait la sortie du film, qui a été plusieurs fois repoussé à cause de la crise sanitaire, évidemment. C'est l'ultime opus de l'ère Daniel Craig, quand même. Ouais. Alors, sortez les mouchoirs.
On sent les sanglots poindre à l'horizon.
Oui, parce qu'on l'aime bien, quand même. Il a insufflé quelque chose de nouveau dans cette saga James Bond. Alors, juste un mot sur l'avant-première, qui était très glamour à Londres, avec donc l'apparition de Daniel Craig dans son beau costume framboise écrasé, donc le costume de l'agent 007. Tout le casting était présent. Léa Seydoux, qui joue donc dans ce James Bond. Rami Malek, qui est le méchant de ce nouvel opus. Et puis, Kate Middleton, qui a fait énormément parler d'elle, qui a un peu volé la vedette, faut le dire, au cast de James Bond. Le film sortira donc mercredi prochain, le 6 octobre, en France. Je peux pas vraiment vous parler d'histoire, déjà, parce qu'on n'a pas le droit. Il y a ce qu'on appelle un embargo. Et puis surtout, parce que, en fait, c'est 2h40 de rebondissement en rebondissement. Donc, si je vous disais quoi que ce soit, je risquerais de spoiler le film. Simplement, franchement, c'est prodigieux. C'est une claque, comme d'habitude, avec James Bond.
James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi.
Il s'appelle Safin.
Qu'est-ce qu'il veut ?
Se venger.
C'est un régal. Déjà, c'est un régal sur quelques secondes seulement.
C'est toujours hyper efficace. Mais alors, faut pas croire, c'est quand même éprouvant d'être un héros. Donc, Daniel Craig, il a endossé ce costume pendant 15 ans. Il a 5 films à son actif, de Casino Royale à celui-là, le dernier, Mourir peut attendre. Et là, ça y est, quoi. Il en a marre. Il a dit qu'il arrêtait, qu'il avait besoin de se concentrer sur sa vie personnelle. Il a déclaré récemment dans un documentaire, en fait, ma vie personnelle a été lourdement affectée par le fait de devenir aussi célèbre du jour au lendemain. Et il dit aussi, quoi, toutes les cascades, voilà, il a été abîmé même physiquement. Il explique, il dit, dès le premier film en 2005, je me suis enfermé chez moi, rideau tiré, je ne sortais pas, j'étais physiquement et mentalement en état de siège. Donc voilà, un James Bond un peu abîmé, mais franchement, toujours aussi charismatique dans cet épisode.
Je crois que c'est celui qui a fait le plus de James Bond, d'ailleurs, en tant qu'acteur. 5, c'est colossal. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de James Bond?
Et non, et c'est ça qui...
Ah, ça c'est la bonne nouvelle du dimanche.
C'est la fin de l'ère Daniel Craig, mais franchement, rassurez-vous, et d'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin du générique, vous verrez cette phrase que les fans ont tant espéré, James Bond reviendra. Reste à savoir qui maintenant va incarner James Bond, et je peux vous dire que les rumeurs vont bon train.
Merci beaucoup, Laurie. Nous, on sait que vous revenez le week-end prochain, et bien on sûr. Se donnera rendez-vous évidemment au cinéma pour voir ce fameux James Bond. Merci beaucoup, Laurie.
Avec plaisir.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Et maintenant, on accueille dans la matinale week-end Louis de Raguenel. Merci d'être avec nous, Louis.
Bonjour, Isabelle.
Chef du service politique d'Europe 1. On parle beaucoup de James Bond, on l'a vu avec Laurie. Mais ce matin, vous allez nous raconter une vraie histoire d'espionnage avec un rebondissement pour le moins surprenant.
Oui, en fait, c'est mieux que ça. En fait, 6 mois avant l'affaire Pegasus, vous vous souvenez, c'était l'affaire de l'espionnage de portable de ministre, et même on parlait de l'espionnage du portable d'Edouard Philippe. Eh bien, plusieurs services de l'État étaient encore en discussion commerciale avec cette société NSO, qui est en fait la maison mère qui possède la société Pegasus dont on vient de parler. En réalité, ça faisait un peu plus d'un an et demi que la France cherchait à se doter d'un outil de ce type, pour une raison: aucune société française n'est capable de fournir une telle prestation. Vous savez, les services de renseignement français ont beaucoup de mal à casser les messageries cryptées comme Telegram, WhatsApp ou encore Signal. Et l'avantage des sociétés, des solutions proposées par la société NSO, c'est qu'au lieu de s'échiner à casser ces fameux codes, eh bien, pour ce qui est de la France, dans un cadre légal, bien sûr, strictement encadré, on peut entrer directement sur le téléphone d'une cible, c'est-à-dire une personne qu'on cherche à espionner. Immédiatement, on accède à tout. Le contenu intégral de votre téléphone, Isabelle, par exemple, si vous êtes soupçonné d'espionnage à l'égard de la Chine, vos photos, tous vos messages, vos mails, vos données de géolocalisation, bref, on peut accéder à absolument tout. Et donc, comme aucune société française n'est en mesure de développer un outil aussi puissant, eh bien, certains services de renseignement, mais surtout le ministère de la Justice, se sont dit, pourquoi ne pas acheter une solution qui existe déjà, ce qu'on appelle une solution sur étagère, et qui existe donc sur ce marché un peu spécial.
Alors, que s'est-il passé? passé, Louis ?
Eh bien, tout d'abord, vous savez, les services de renseignement et le ministère de la Justice n'ont jamais été autant démarchés par ces sociétés de cyberespionnage. Et donc, plusieurs fonctionnaires français ont échangé avec la société NSO, dont on parle à l'instant, pour trouver des solutions permettant d'aspirer plus facilement les données cryptées. Ils sont allés très loin dans les négociations commerciales, mais comme le sujet est ultra sensible, rappelons que la société est israélienne, alors qu'un contrat était sur le point d'être signé, ils ont demandé à Emmanuel Macron en personne de trancher.
Donc on était sur le point de signer avec la société d'espionnage qui nous a espionner, ça paraît complètement surréaliste ce que vous nous racontez. Qu'est-ce qu'a décidé finalement le président de la République ?
Eh bien, je peux vous dire qu'il y a eu un vrai débat entre les spécialistes qui conseillent Emmanuel Macron sur les questions de sécurité et de défense, entre ceux qui expliquent qu'on a besoin d'une solution en urgence de ce type, et d'autres qui ont pointé du doigt le fait que la société NSO est composée en partie d'anciens membres des services de renseignement israéliens. Je vous fais pas de dessin, Isabelle, il est question clairement de questions de souveraineté et d'indépendance. Et donc, pour répondre à votre question, pour pas faire durer éternellement le suspense.
C'est un vrai roman d'espionnage oui. Que vous nous faites.
Et bien finalement, Emmanuel Macron donc a tranché, ça a été un non catégorique. Alors ça pourrait presque paraître amusant s'il ne s'agissait pas d'un sujet grave de souveraineté. 6 mois plus tard, donc, NSO montrait à la France toutes ses capacités avec l'affaire dont vous venez de parler. Pour terminer, je peux vous dire que l'affaire est encore aujourd'hui suivie de très près. Depuis les révélations, chaque semaine, Laurent Nunez, le coordonnateur national du renseignement à l'Elysée, fait le point sur cette affaire Pegasus avec les principaux services. Preuve s'il en fallait que le potentiel de dangerosité de ce type de société est pris très au sérieux au plus haut niveau de l'État.
Et ça veut dire, parce que j'ai envie de prolonger un peu le suspense, que l'affaire n'est pas complètement terminée ?
Ah non, l'affaire n'est pas terminée du tout. Les investigations sont encore en cours. Et donc l'idée, là, aujourd'hui, ce qu'on cherche à savoir, c'est si réellement il y a des données de ministres et pourquoi pas de parlementaires qui ont été aspirées, captées. Et puis la question qu'on se pose, c'est au profit de qui, pour en faire quoi ? La seule certitude, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs portables qui ont été infectés. Maintenant, ce qu'on cherche à savoir, c'est de savoir un peu quelle est la période, à part de quel moment...
Et quelles informations ont pu circuler. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, si effectivement ces données ont été aspirées.
Eh bien, c'est toujours l'éternel problème, c'est très compliqué. Alors déjà, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises après cette affaire Pegasus. Le coordonnateur du renseignement, Laurent Nunez, dont on a parlé, sensibilise énormément les membres du gouvernement. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de réunions où on ne peut pas garder son téléphone comme ça avec soi. Ce serait impossible de discuter avec Laurent Nunez avec son téléphone comme ça. On le met dans une pochette qui est emballée dans du papier d'aluminium, ce qu'on appelle une petite cage de Faraday, et ce qui permet d'éviter les intrusions et qu'on puisse être écouté quand on discute avec lui.
Merci infiniment Louis de Raguenel pour toutes ces précisions, chef du service politique. Une histoire vraiment édifiante ce matin sur CNews et Europe 1. La matinale week-end continue. À tout de suite pour un nouveau journal. Nous ferons le point sur la vigilance orange dans une vingtaine de départements. La Loire-Atlantique peut enfin souffler. L'alerte rouge a été levée. Puis dans notre débat avec Guillaume Bigot et Arnaud Benedetti, nous reviendrons sur un week-end très politique, une campagne parasitée selon le terme de Nicolas Sarkozy par un certain Éric Zemmour. À tout de suite.
Une météo encore très perturbée pour ce dimanche matin, puisque la perturbation de la veille qui a apporté d'importants cumuls, même inhabituels, en Loire-Atlantique, puis on va la retrouver ce matin encore sur un axe sud-ouest, nord-est, accompagné de vent et encore de pluie soutenue des Poitou-Charentes en remontant vers les Ardennes. Mais dans un deuxième temps, se met également en place un épisode cévenol avec ce flux de sud qui, justement, va bloquer toute l'évaporation de la mer contre les Cévennes, ce qui va apporter d'importants cumuls. D'ailleurs, dans l'après-midi, ça va se confirmer. On devrait recevoir environ 300 mm de pluie, donc vraiment des cumuls inhabituels là aussi. Ça va un tout petit peu faiblir par ailleurs et on aura même un ciel de traîne qui va se mettre en place sur un très large carnan ouest avec là aussi une alternance de passages nuageux mais aussi d'éclaircies. À noter tout de même le vent qui va encore souffler de manière tempétueuse vers le bassin stéphanois à plus de 100 km/h. Pour les températures, en matinée, elles seront comprises entre 8 et 20 degrés, donc forcément avec la perturbation, ça baisse un petit peu. 8 degrés la minimale pour Brest, 10 à 11 degrés pour le reste du littoral de la Manche, 15 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, eh bien là encore, on perd quelques degrés. Par contre, la douceur, elle se maintient en direction de la Méditerranée. 27 degrés, la maximale pour la Corse, tout comme pour Perpignan. Et la minimale sera de 14 degrés pour Lille.
Quel est le programme pour les 3 prochains jours ?
Alors ça restera encore dégradé à l'est du pays tout de même, hein, puisque la perturbation, elle va rester cantonnée sur l'extrême sud-est avec encore une situation à surveiller, que ce soit pour la Provence, la région PACA. Ailleurs, ça redevient beaucoup plus calme avec une petite baisse des températures. Et puis à partir de mardi, une autre perturbation va tout simplement arriver, glisser sur toute la France avec une accalmie qui sera lente mais sûre à partir de la journée de mercredi.
Où est-ce que vous avez décidé de nous emmener, Claire, aujourd'hui ?
Je vous emmène en Vendée pour illustrer tout simplement les importants cumuls de pluie qui sont tombés tout simplement hier soir. Et dans la nuit, plus de 68 mm en l'espace de quelques heures. C'est l'équivalent de plus de 25 jours de pluie. Donc des records inhabituels, mais heureusement, dans l'après-midi, les habitants de ces régions-là pourraient même profiter quand même de belles éclaircies.
Bon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end CNews Europe 1 avec toute l'équipe au menu de cette nouvelle édition. Le docteur Brigitte Millot nous parlera du cancer du sein. Vous savez qu'on est en plein mois d'octobre rose. Il est important de se faire dépister. Il existe des dépistages gratuits. Puis ne manquez pas évidemment notre rendez-vous habituel du dimanche avec Jean-Pierre Elkabbach, 8h40. Son invité aujourd'hui, le médecin Philippe Juvin, candidat à la primaire Les Républicains. Vous écoutez Europe 1, il est 8h. Et on accueille avec plaisir nos débatteurs ce matin, Guillaume Bigot et Arnaud Benedetti. Bienvenue à tous les deux. On verra avec vous que la riposte face à la percée d'Éric Zemmour peine à se mettre en place. Pour l'instant, celui qui n'est toujours pas candidat fait cavalier seul, tranquillement. Il était dans un meeting impressionnant devant quelques 1500 personnes hier à Lille. On parlera aussi de Jean-Luc Mélenchon qui lui demande carrément un débat avec le président de la République, Emmanuel Macron. Mais pour l'heure, le tour complet de l'actualité avec vous. Elisa Lukaski, on va entrer un peu plus dans le détail de ce meeting d'Éric Zemmour.
Oui, c'était une séance de dédicace aux allures de meeting pour Éric Zemmour qui était au Palais des Congrès de Lille hier pour parler de son dernier livre. Mais l'échange a pris des allures de rendez-vous politique. Si l'écrivain et polémiste n'est toujours pas déclaré candidat, celui qui fait figure de troisième homme à la prochaine présidentielle dans les sondages n'a pas boudé son plaisir de voir qu'il bouscule la vie politique actuelle. Gauthier Lebret, Boris Nicolas et Inès Yahelkhan.
C'est un week-end très économique qui se conclut à Lille pour Éric Zemmour. Après avoir déjeuné vendredi avec 300 chefs d'entreprise à Valenciennes, son discours ce samedi était consacré quasi exclusivement à l'état industriel du pays. Éric Zemmour dresse un constat catastrophique de la situation économique.
Votre magnifique tissu industriel du Nord s'est liquéfié comme un glaçon en plein soleil. Et comme d'habitude, quand c'est le Nord qui paye, c'est toute la France qui en vérité s'appauvrit. C'est toute la France qui s'est désindustrialisée.
Troisième homme de la présidentielle dans un récent sondage, Éric Zemmour se rapproche de plus en plus d'une déclaration de candidature à la présidentielle. Il le sait, s'il ne se lançait pas, ses sympathisants le prendraient comme une trahison.
Je sens bien cet enthousiasme qui serait fort déçu si jamais j'y allais pas. Ça fait partie de mes réflexions aussi et de ma j'en tiendrai compte pour ma décision.
Éric Zemmour va continuer son Tour de France. Le week-end prochain, il sera en Corse et lundi, à Paris, il débattra avec Michel Onfray au Palais des Congrès.
Éric Zemmour qui occupe le paysage politique actuel et qui préoccupe Nicolas Sarkozy aussi. Il est allé de sa remarque sur le polémiste au surlendemain de sa condamnation dans l'affaire Big Malion. L'ancien président de la République, qui était en séance de dédicace de son livre, a déploré l'absence de débat actuel qui ferait le jeu du polémiste. On l'écoute.
Il est le symptôme de quelque chose. Il n'en est pas la cause. Vous savez, vous connaissez ce proverbe chinois. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bien souvent, on regarde les conséquences et pas les causes. La cause, c'est que tous ceux qui participent au débat public doivent parler plus directement au cœur des Français pour qu'il y ait des vrais débats et qu'il n'y ait pas cette espèce de pensée unique qui empêche qu'on discute de thèmes importants, de sujets importants. Et c'est sur cette absence de débat que prospère une parole qui est assez souvent excessive.
Et pour l'instant, celui qui est le candidat des Verts à la présidentielle, Yannick Jadot, en dit un peu plus sur son programme, Elisa.
4 jours après sa victoire à la primaire des écologistes. Il détaille dans les colonnes de nos confrères du journal du dimanche les grandes mesures de son projet. Yannick Jadot qui veut être dans l'action et engager la sortie de l'élevage industriel. 82% des Français sont d'ailleurs favorables à cette mesure. Autre proposition, l'application du taux de TVA selon les produits concernés. Il veut également reconstruire l'économie et propose un plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an qui, selon lui, pourrait créer 1,5 million d'emplois.
On parlait, Elisa, du rappel de l'ambassadeur d'Algérie, c'est ça?
Oui, l'Algérie qui a annoncé le rappel immédiat pour consultation de son ambassadeur à Paris. Décision motivée par son rejet catégorique, je cite, de déclaration attribuée au président français Emmanuel Macron qui aurait évoqué un système politico-militaire au pouvoir à Alger.
Et la météo, bien sûr, préoccupante hein, tout au long du week-end. Du soulagement quand même en Loire-Atlantique où l'alerte rouge a été levée ce matin.
Exactement, mais 22 départements sont toujours en alerte orange. Vous l'avez dit, la vigilance rouge, pluie, inondation levée en Loire-Atlantique. Là, justement, on retrouve notre envoyé spécial, Mickaël Chailloux, à Carquefou, comme tout à l'heure, cette fois en liaison télé. Mickaël, Carquefou, c'est la commune la plus touchée, mais on a eu peut-être plus peur des dégâts finalement. Tout va bien autour de vous, non?
Oui, tout à fait. Peu de dégâts, j'ai envie de dire, ce matin, au regard de l'alerte rouge qui avait donc été déclenchée hier soir. Les pompiers, le CONIS qui se trouve ici à Carquefou, où je me trouve, ont enregistré, les pompiers, 113 interventions en Loire-Atlantique depuis hier, notamment sur les communes du Sud-Loire, essentiellement pour des caves inondées. Pas de victimes à déplorer, c'est bien l'essentiel. Et sur les réseaux de circulation, le périphérique nantais est lui fermé pour cause d'inondation et il faut toujours ce matin se renseigner avant de prendre le train. Enedis annonçait 917 foyers privés d'électricité hier soir à 23h. Tout le monde devrait être rétabli avant midi. Il est tombé ici même à Carquefou 102 mm, c'est l'équivalent d'environ un mois de précipitation tombée en 12 heures. Vous imaginez le déluge que nous avons connu ici depuis hier matin, samedi, aux alentours de 10 heures, quand la pluie a commencé à s'abattre sur la région. Dans le département voisin, celui de la Vendée, à Beauvoir-sur-Mer, 5 personnes ont été évacuées dans la nuit, car l'eau montait jusqu'à 80 cm dans une rue de cette commune. Et pour une raison simple, c'est que nous étions en marée haute et les précipitations ne pouvaient donc pas s'écouler. Opération terminée ce matin car la marée basse est revenue. Vous l'avez compris, plus de peur que de mal, sachant que la Loire-Atlantique est repassée en vigilance orange ce matin.
Merci beaucoup Mickaël Chailloux en direct de Carquefou avec Jean-Michel Decazes. La fin du masque pour certains écoliers, c'est à partir de demain.
Dès ce lundi, 47 départements, les élèves de primaire de 47 départements qui sont le moins touchés par l'épidémie de coronavirus ne seront plus obligés de porter le masque à l'école. Il s'agit des zones où le taux d'incidence se stabilise hein, sous le seuil des 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Le masque qui reste néanmoins obligatoire dans 54 départements.
De la culture, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'être à Paris, c'est le dernier jour pour en profiter.
Oui, si vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux, parce que vous avez certainement aperçu les milliers de photos qui circulent sur les réseaux sociaux, regardez cet arc de triomphe emballé par l'artiste Christo, une œuvre posthume et éphémère. Eh bien, ça se termine ce soir, donc précipitez-vous au niveau de la place de l'Étoile si ça n'a pas déjà été fait et que vous en avez l'occasion. Une œuvre qui a attiré plus de 800 000 visiteurs en 2 semaines.
Et une éruption qui décidément fait beaucoup parler.
Oui, celle du volcan, le volcan Cumbre Vieja. Ça se passe sur l'île de La Palma, aux Canaries, avec des images impressionnantes. Alors, il n'y a pas eu de mort, de personnes décédées suite à l'éruption de ce volcan. La lave qui continue de se déverser, ça fait des jours que ça dure, mais beaucoup, beaucoup d'évacuations, des milliers de personnes évacuées sur cette île de La Palma.
Voilà pour cette éruption qui n'en finit pas. On parle de foot maintenant, Elisa.
Oui, et notamment de ce match entre Nice et Brest, un mois et demi après les incidents lors de la rencontre entre Nice et Marseille. Eh bien, les Niçois, ils ont retrouvé leur public, ça leur a plutôt réussi. Victoire 2-1 hein, contre les Bretons grâce à des buts de Todibo juste avant la pause et de Melvin Barr à l'heure de jeu. Brest va sauver l'honneur dans le temps additionnel. Grâce à ce succès, Nice monte sur le podium et prend la 3e place derrière le PSG et Lens. Suite et fin de cette 9e journée de Ligue 1 ce dimanche avec notamment un savoureux Lille-Marseille à suivre sur nos antennes à 17h.
Merci beaucoup Elisa Lukaski. On vous retrouve évidemment dans un rappel de l'actualité à partir de 8h30. Pour l'instant, on jette un coup d'œil sur le temps de ce dimanche avec vous, Claire Delorme. Ça reste agité, mais bon, ça s'est quand même calmé en Loire-Atlantique.
Exactement, mais je rappelle tout de même que 22 départements sont encore en alerte, pluie, inondation. Et comme vous l'avez si bien dit, en effet, ça va progressivement se calmer dans le quart nord-ouest, mais ça sera surtout en direction de la vallée du Rhône qu'on va surveiller justement les importants cumuls. Un épisode cévenol est actuellement en cours. Nous allons d'ailleurs voir que dans l'après-midi, plus de 300 mm de pluie pourrait tomber, l'équivalent donc de 30 litres au mètre carré. C'est quand même assez conséquent, donc l'extrême vigilance sera vraiment de mise toute la journée. Alors qu'à partout ailleurs, les pluies vont légèrement faiblir. On aura même un ciel de traîne à l'arrière qui va apporter quand même une accalmie et peut-être même pourrait-on espérer à quelques belles éclaircies. Pour les températures, après le passage de la perturbation, forcément, on va perdre quelques degrés. 14 degrés, ce sera la minimale à Lille. Dans l'après-midi, tout de même 18 degrés pour le bassin parisien, 23 degrés du côté de Strasbourg. Et la douceur restera de mise en Méditerranée avec la maximale de 27 degrés.
Merci beaucoup Claire Delorme. Il est 8h06 dans la matinale week-end. C'est News Europe 1, c'est l'heure du débat. Et avec nous face à face ce matin, Guillaume Bigot, politologue, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Encore une fois, bienvenue à vous deux. Les séquences, hein, on l'a vu lors du journal, se suivent et se ressemblent. Éric Zemmour enchaîne les meetings, il hausse le ton, si l'on peut dire, les déplacements aussi, comme s'il était déjà candidat à la présidentielle. On a le sentiment que c'est lui qui donne le rythme de la campagne. Serait-il devenu, Éric Zemmour, le maître des horloges? Guillaume Bigot, je vous laisse réfléchir.
Oui, je réfléchis parce qu'en fait, il me semble qu'il y a une raison pour laquelle il n'annonce pas sa candidature. Il y a peut-être le choix. C'est difficile, hein, je ne suis pas dans sa tête. Le choix, effectivement, comme vous dites, d'être le maître des horloges et de décider. Et il y a la question peut-être des signatures. Donc c'est deux enjeux différents. Est-ce qu'il trouve que n'est pas encore opportun, ou est-ce qu'il n'a pas encore les signatures? Je pense que s'il n'avait pas les signatures, il aurait plutôt intérêt à dire qu'il n'a pas les signatures. Ça accélérerait probablement le processus. Mais ça, c'est pour sa candidature. Maintenant, les thématiques qu'il impose, oui, ce sont les thèmes qu'il impose qui sont effectivement repris. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Alors, Arnaud Benedetti, sur la candidature d'Éric Zemmour, il s'est confié hein, hier sur CNews en disant que plus le temps passe, plus il y pense.
Non, mais sa stratégie de communication politique est très habile parce que tout simplement, il est en train de créer les conditions d'une demande d'Éric Zemmour dans le champ politique. Donc, on voit bien que de ce point de vue, c'est plutôt réussi. Depuis 3 semaines, il est devenu le personnage central du champ politique et médiatique. Et d'ailleurs, toutes les femmes et les hommes politiques se positionnent par rapport aujourd'hui à Éric Zemmour et finalement à l'agenda et au lexique politique.
Oui, c'est lui qui est devenu le pivot. Hein.
Il est devenu le pivot. Je n'en veux que pour preuve hier la réunion de la République En Marche à Avignon où on a vu tout un ensemble de responsables politiques de la République En Marche s'en prendre frontalement à Éric Zemmour. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit tactiquement la chose la plus profitable pour eux parce que ça le légitime encore plus.
Justement, pour illustrer ce que vous dites, je voudrais qu'on écoute Olivier Véran, le ministre de la Santé, hier à cette université d'été à Avignon.
C'est que nous ne devons sous aucun prétexte laisser le pays dans les mains des aventuriers. L'aventurier du grand soir, qu'à titre personnel j'aime bien écouter parce que j'aime bien les grands orateurs, mais j'aime pas la démagogie et j'aime pas la mégalomanie. L'aventurier du repli, du rejet, du racisme, qui cite les grands auteurs comme certains font de la prose, mais qui donne des boutons aux historiens. Non, monsieur Zemmour, il ne suffit pas de citer Talleyrand toutes les 3 phrases pour faire de vous un homme d'État. Il occupe aujourd'hui un terrain qu'on connaît bien, qui est un terrain qui a été occupé longtemps par la famille, que dis-je, la dynastie Le Pen, et qui a fait son fonds de commerce sur la xénophobie et le repli sur soi. Moi, j'appartiens, à l'inverse, à une génération qui n'avait pas honte de crier « La jeunesse emmerde le Front National ».
Arnaud Benedetti, je vous laisse poursuivre, mais au moins on a eu l'illustration de la tactique. Du gouvernement.
Oui, on voit bien. Mais le problème, c'est que je crois qu'il y a une erreur d'analyse qui est faite par Olivier Véran et par La République En Marche. C'est que Éric Zemmour occupe un terrain qui est beaucoup plus large que celui du Rassemblement national. En effet, il occupe, disons, l'espace politique que Marine Le Pen a d'une certaine manière libéré en essayant de se dédiaboliser, c'est-à-dire les fondamentaux de ce qu'était le Front national historique de Jean-Marie Le Pen.
Mais ce et Jean-Marie Le Pen qui se rallie désormais.
Et Jean-Marie Le Pen qui, en tout cas, se rallie de manière conditionnée, en disant si Éric Zemmour est le mieux placé, en l'occurrence, je soutiendrai Éric Zemmour. C'est plus nuancé, du moins sa déclaration. Et puis il occupe un autre espace. Il occupe l'espace d'une partie des Républicains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre des Républicains, aux yeux d'un certain nombre de sympathisants, d'électrices et d'électeurs des Républicains, c'est une offre qui apparaît, in fine, assez peu différenciée par rapport à Emmanuel Macron. Donc il y a un besoin, j'allais dire, d'identité de droite qui s'exprime dans cette zone de chalandise et que Éric Zemmour, aujourd'hui, occupe. On le voit quand on regarde, par exemple, l'étude Ipsos, on voit que 24% de l'électorat filloniste de 2017 voterait, si les élections avaient lieu aujourd'hui, pour Éric Zemmour.
Et il capte effectivement une partie CSP+, de cet électorat de droite.
Le vrai sujet aujourd'hui pour Éric Zemmour, c'est de pouvoir capter l'électorat populaire. S'il capte l'électorat populaire, là on aura confirmation.
Il aura complètement siphonné.
On aura confirmation d'une dynamique, en effet, qui est une dynamique électorale extrêmement forte.
Et Guillaume Bigot, politologue.
Les deux reproches qu'on lui adresse, généralement, sont lesquels ? Numéro 1, la radicalité du discours. Numéro 2, il n'est pas un professionnel de l'étape, ce n'est pas son métier, c'est un éditorialiste, voire un intellectuel. Or, revenons sur ces deux éléments parce que c'est très intéressant. Moi, il me semble que la France n'a pas fondamentalement changé depuis 2017. Elle attend toujours une rupture fondamentale. Or, Emmanuel Macron a réussi parce qu'il a incarné cette rupture fondamentale. Seulement, la promesse de rupture n'a pas été tenue puisqu'il fallait que tout change pour que rien ne change. En fait, ça changeait uniquement dans la forme. Et cette attente, elle est toujours là, finalement. Or, cette radicalité qu'on lui reproche, c'est presque, vous savez, dans la Bible, le signe de Gédéon. C'est la marque, finalement, comme il n'a pas peur de transgresser, comme il n'a pas peur de faire tomber les tabous de la classe dirigeante, une partie importante, et notamment ces réserves gigantesques de voix des abstentionnistes, parce que si on se reporte à 2017, c'est pas tout à fait, ce sera pas la même mathématique électorale, si vous voulez. 7,2 millions de voix pour le candidat de la France insoumise au premier tour, 7,6 millions de voix pour François Fillon, mais plus de 11 millions pour les abstentionnistes. Donc on voit ces réserves-là de gens qui veulent une rupture. Et en réalité, plus il est radical et plus les gens se disent « mais lui, finalement, il est très différent ». Deuxième argument, c'est l'argument « finalement, ce n'est pas un professionnel ». Et là, c'est très intéressant. D'abord parce qu'il a une première réponse qui me semble assez habile. Il dit « mais finalement, vous me reprochez d'être sur le terrain des idées, mais si la politique n'est pas le terrain des idées, alors c'est le terrain des places ». Comprenez, c'est le terrain de l'ambition personnelle.
Arnaud
et enfin, je termine juste le raisonnement. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est que le pouvoir, depuis très longtemps, et Emmanuel Macron l'incarne au combien, est dans le « en même temps ». Or, « en même temps », c'est une phrase de prof de philo. C'est pas du tout une phrase de dirigeant. Parce qu'en réalité, diriger, c'est choisir, précisément. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les choix, mais choisir, regardez le général de Gaulle, il a eu des millions d'ennemis. Ah, si vous avez des ennemis, c'est qu'une fois dans votre vie, vous avez tenu vos positions, disait Churchill.
Arnaud Benedetti, pour répondre à Guillaume Bigot.
Si vous voulez, depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a une atmosphère anti-système qui s'est imposé dans le paysage à la fois politique et même intellectuel du pays, que Éric Zemmour est en mesure d'incarner. Parce que tout simplement, il tient un discours qui est un discours qui est parfois un discours de rupture, mais aussi de rappel des fondamentaux. Quand il dit finalement la droite républicaine a oublié son logiciel politique, qui était le logiciel politique des années 90,
et d'ailleurs qui était aussi celui du DF. Logiciel des années 90.
Quand vous prenez la plateforme qui était celle du RPR et de l'UDF en 1989 ou en 1990, elle n'était pas si éloignée que cela.
Non, mais sur Pétain,
des thématiques.
Par
alors oui, alors en effet, là sur la question historique, c'est une chose. Sur la question, j'allais dire historiographique, c'est une chose. Sur la question, en tout cas, du projet et des propositions, clairement aujourd'hui, Éric Zemmour, lui, il dit finalement, je suis l'héritier de cette droite-là. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il fait une analyse critique où il déconstruit finalement l'évolution du RPR et du DF, de l'UMP et aujourd'hui des Républicains depuis 20 ans et 25 ans, considérant que finalement cette droite s'est reniée et qu'elle s'est ralliée finalement à un courant qui est le courant libéral et centriste, que d'une certaine manière d'ailleurs Emmanuel Macron incarne à sa façon. Donc la force de Zemmour aujourd'hui, c'est à la fois ce positionnement anti-système dans un pays où en effet il y a un fort sentiment anti-système et le fait qu'il constitue une sorte de rappel du refoulé de cette droite qui aurait oublié ses fondamentaux.
Guillaume Bigot, juste pour conclure, combien de temps lui reste-t-il pour se déclarer candidat? Est-ce qu'il ne prend pas un risque en ne maîtrisant pas le tempo?
Je pense qu'il ne faut pas qu'il attende en effet trop, parce que, comme Arnaud Benetti l'a suggéré, il y a à la fois une stratégie qui serait maîtrisée, celle du désir, mais il y a une stratégie qui serait imposée, celle de ne pas avoir les signatures, effectivement, et qu'à un moment, on se demande finalement s'il est là juste pour perturber le jeu ou s'il est là pour y aller vraiment. Et ça veut dire aussi qu'une fois qu'il y sera, et je pense que d'une certaine façon, la classe dirigeante n'a pas fini de manger son chapeau, c'est qu'en réalité, le pire va être de passer à la partie programmatique. Parce que là, finalement, il attaque le système, ce qui est un exercice assez convenu, finalement. Mais on l'attend surtout sur le fait, on l'attend, d'autres candidats d'ailleurs, sur le fait qu'il ait des propositions, finalement, alternatives. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe si on synthétise? Il y a une espèce de bloc, on pourrait appeler ça la ligne Maginot d'aujourd'hui. La ligne Maginot d'aujourd'hui, c'est l'Union européenne, c'est la mondialisation, c'est le primat du bon plaisir individuel au-dessus de tout, l'état de droit, les droits de l'homme. Et ce bloc-là, on ne peut pas le discuter. Donc ça revient à quoi la politique? Et c'est en cela qu'on lui fait un procès d'amateurisme, si vous voulez. Ça revient au modèle technocratique. Ça prend n'importe quel problème et vous en cirez un catalogue de mesurettes juridico-techniques que seule l'élite maîtrise. Une fois que un Zemmour ou un autre, d'ailleurs, donnera des solutions absolument applicables pour rompre avec cette ligne Maginot, parce que la ligne Maginot, elle est enfoncée depuis 30 ans, eh bien, ça va faire très très mal.
Arnaud Benedetti, et là vraiment pour conclure, que pensez-vous de la riposte, notamment chez les Républicains, qu'on n'entend pas beaucoup, ou encore avec La République En Marche, on a entendu tout à l'heure Olivier Véran, est-ce que c'est à la hauteur du cas Zemmour?
De toute façon, la riposte aujourd'hui le renforce, puisque à partir du moment où on considère que Éric Zemmour est un danger, c'est le cas pour La République En Marche comme c'est le cas pour les Républicains, qui l'ont dit, bien qu'ils ont été beaucoup plus, j'allais dire, contradictoires dans leur expression, ils ne font que, d'une certaine manière, ossifier et consolider les positions d'Éric Zemmour, puisqu'ils en font, d'une certaine manière, aujourd'hui, l'alpha et l'oméga autour duquel tourne toute la vie politique française. Le problème est de savoir si ça va être durable et si ça va s'inscrire dans la durée, parce qu'on est quand même encore loin.
On est encore à 7 mois de la présidentielle. Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Bigot, politologue, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, pour ce face-à-face dans la matinale week-end. CNews et Europe 1, restez avec nous. On parle de votre santé maintenant, c'est important, avec Brigitte Millot. C'est l'heure de notre rendez-vous santé du dimanche avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte.
Bonjour Isabelle.
Vous avez mis un beau chemisier rose. Et oui, ça évoque ruban rose, d'octobre rose pour la prévention contre le cancer du sein. C'est important d'en parler, ça fait 25 ans que ça existe, mais on n'est pas suffisamment informé.
Oui, il faut absolument sensibiliser à ce cancer qui est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il existe aussi chez les hommes, mais moins fréquent. 1% des cancers du sein affectent les hommes.
On en parle moins de ça.
On en parle moins, mais il faut quand même le savoir. Il touche une femme sur 8. Isabelle, une femme sur 8, vous faites une soirée entre amis, vous allez au bureau, vous allez chez le coiffeur. Il y a une femme sur 8 qui aura un cancer du sein. Et il faut en parler. Pourquoi? Parce que ce cancer, quand il est dépisté tôt, il va guérir 9 fois sur 10. Donc quand même, c'est un peu...
Ce serait dommage de se priver de cette prévention. Ouais. Est-ce qu'on connaît les causes?
Alors, les causes exactes, non. On sait qu'il y a des facteurs contre lesquels, malheureusement, on ne peut rien. Hein. Je disais, c'est déjà le sexe. C'est plus fréquent chez la femme que chez l'homme, même si, encore une fois, il y a 1% des hommes qui sont touchés. Il y a l'âge aussi. Plus vous avancez en âge, plus vous êtes à risque de développer un cancer du sein. Il y a les antécédents familiaux, si dans votre famille. Donc ça, c'est important d'aller demander, de questionner dans la famille, les tantes, grand-mères, sœurs, mères, s'il y a déjà des cancers du sein dans la famille, donc savoir qu'on sera plus à risque d'en développer un. Ensuite, il y a les antécédents personnels, c'est-à-dire que si vous en avez déjà fait un, bah vous êtes plus à risque d'en faire un autre. Donc il faut absolument continuer le suivi, même si vous êtes guéri, il faudra continuer pendant des années à être suivi, à faire des examens. Après, donc ça, ce sont les choses contre lesquelles on ne peut rien. Il y a aussi ce qu'on appelle une vie génitale longue.
C'est-à-dire
quand vous avez eu vos règles tôt et quand vous avez une ménopause tardive, donc pendant de longues années, vous avez été imprégné hormonalement. Vous avez eu des estrogènes. Donc, et on sait que la plupart des cancers du sein sont hormonodépendants. Donc, vous avez comme ça eu une vie génitale longue avec beaucoup d'hormones. Donc, vous serez plus à risque de développer un cancer. Ça, ce sont les facteurs contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Mais après, il y en a contre lesquels on peut lutter. Le tabac, l'alcool... justement les hormones, certaines pilules trop fortes, ou alors vous savez les traitements de la ménopause, les THS, traitements hormonosubstitutifs. Là, on va faire attention, on va en discuter avec son médecin, et l'obésité.
Pourquoi l'obésité ?
L'obésité parce qu'en fait, dans les cellules graisseuses, il y a aussi beaucoup d'estrogènes, donc ces fameuses hormones féminines dont on vient de parler. Donc l'obésité est un facteur de risque de développer un cancer du sein, donc il faut le savoir.
Brigitte, vous avez dit que quand il est dépisté tôt, on en guérit. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir le plus tôt possible qu'on a un cancer du sein ?
Il y a déjà une chose toute simple que toutes les femmes devraient faire, que toutes les mères devraient apprendre à leurs filles. C'est ce qu'on appelle l'autopalpation. Et ce, quel que soit l'âge, très jeune ou très âgé, quand vous prenez votre douche ou quand vous vous crémez, mettons dans la douche, vous mettez du savon sur les doigts. Au bout des doigts, pourquoi ? Parce qu'au bout des doigts, la pulpe des doigts est très sensible. Vous savez, c'est pour ça que les aveugles lisent avec la pulpe des doigts, parce que c'est hypersensible. Donc avec vos doigts pleins de savon ou de crème, vous imaginez partager vos seins en quatre, et là, vous palpez chaque cadran. On dit de séparer en quatre, juste pour ne pas oublier une zone. Vous palpez chaque cadran, vous palpez aussi sous les aisselles, à la recherche d'un ganglion, car on peut avoir des ganglions qui sont atteints aussi. Vous regardez dans votre miroir s'il n'y a pas soit un petit écoulement du mamelon, soit une petite rétractation, vous savez, comme une petite fossette du mamelon. Et là, ça peut être un symptôme. Et là, effectivement, si vous sentez quelque chose, vous allez chez votre médecin. Attention, pas d'affolement. Même quand on sent une petite boule, dans 90% des cas, il s'agit de quelque chose de bénin. Et puis, il y a surtout le dépistage gratuit.
C'est gratuit, il faut le rappeler.
C'est gratuit, c'est efficace. Alors, vous recevez un petit papier vous invitant à aller chez un radiologue dans où vous habitez. Et là, c'est gratuit, c'est tous les deux ans de 50 à 74 ans. Mais avant 50 ans, vous faites l'autopalpation. Après 74 ans, vous continuez l'autopalpation. Et surtout, n'ayez plus peur que de cet examen. Ça peut tellement vous changer la vie.
Mais oui, c'est vital. Et 9 cancers sur 10 peuvent être guéris s'ils sont dépistés tôt. Merci beaucoup, Brigitte. On vous retrouve évidemment le week-end prochain pour un nouveau point santé. Merci.
Bien sûr, Isabelle.
Il est 8h29, très exactement. Bienvenue à vous si vous vous réveillez avec nous dans la matinale week-end sur CNews et Europe 1. Le rappel complet des titres de l'actualité avec vous, Elisa Lukavski.
Une séance de dédicace aux airs de meeting pour Éric Zemmour hier à Lille, le rendez-vous de l'écrivain et polémiste venu échanger autour de son dernier livre avec 1500 sympathisants a pris des allures de rendez-vous politique avec dans la foule des t-shirts Zemmour 2022. Pas officiellement candidat, Éric Zemmour a fustigé la politique actuelle. 6 jours après avoir traité les Républicains de chochotte, il a hier récidivé.
Nos dirigeants se refusent à voir le problème en face. Ils mettent des rustines, ils mettent des sparadraps. Non pas parce qu'ils sont ignorants, non pas parce qu'ils sont cyniques, mais je vais vous faire une confidence, c'est parce qu'ils sont peureux. Ils sont pusillanimes. Je les ai traités de chochottes à LR et ils ne s'en sont pas remis. Mais c'est quand même ce qu'ils sont depuis 40 ans.
face à Emmanuel Macron. C'est ce que le leader de la France insoumise, invité de On est en direct chez nos confrères de France 2, a déclaré hier, crédité de 9% des intentions de vote selon le récent sondage Ipsos. Il est aussi revenu sur son débat face à Éric Zemmour. La politique, ce n'est pas que des abstractions, ce sont aussi des affects. L'antiracisme est une idée, mais aussi un affect. Face à Éric Zemmour, il fallait quelqu'un qui lève le drapeau pour dire que la France n'est pas ce qu'il en dit. La politique étrangère et cette décision radicale du gouvernement algérien, celle de rappeler immédiatement pour consultation son ambassadeur à Paris, décision motivée par son rejet catégorique de déclaration attribuée au président français Emmanuel Macron, qui aurait évoqué un système politico-militaire au pouvoir à Alger. La fin du masque pour certains écoliers, c'est pour demain. Dès ce lundi, les élèves de primaire de 47 départements qui sont moins touchés par l'épidémie de coronavirus ne seront plus obligés de porter le masque à l'école. Il s'agit des zones où le taux d'incidence se stabilise sous le seuil des 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Les intempéries et 22 départements qui sont toujours en alerte orange. La vigilance rouge pour pluie, inondation a en revanche été levée pour la Loire-Atlantique, où une centaine d'interventions des secours ont eu lieu. À Nantes, une partie du périphérique a même été coupée. C'est justement dans la ville que les cumuls de pluie ont été les plus conséquents. L'équivalent de 32 jours de pluie sont tombés à Nantes. Aux Pèlerins également, l'équivalent de 28 jours. Et puis parmi les autres départements touchés, on retrouve le Morbihan ou encore la Sarthe. Et puis des images impressionnantes pour terminer, celle de cette nouvelle coulée de lave du volcan Cumbre Vieja sur l'île de La Palma aux Canaries. L'éruption du Cumbre Vieja, qui n'a fait aucun mort ni blessé, a entraîné l'évacuation d'environ 6 000 des 85 000 habitants de l'île. Il a tout de même provoqué de nombreux dégâts.
Merci beaucoup Elisa Lukaski pour ce point complet sur l'actualité. On va maintenant parler de santé, en quelque sorte, avec vous Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous penchez ce matin sur les déserts médicaux. Se soigner quand on habite en zone rurale, ça relève vraiment aujourd'hui du parcours du combattant.
La situation est totalement kafkaïenne. Imaginez Isabelle, vous avez un horrible mal de gorge. Vous voulez prendre rendez-vous avec un médecin généraliste. On vous dit, très bien, on vous donne rendez-vous le 5, mais pas le 5 octobre, le 5 janvier. C'est ce que vivent des millions de Français, et ce, pas uniquement dans des zones rurales, dans énormément d'agglomérations, et c'est une situation qui est absolument plus possible. Ça s'empire, il y a des solutions, on va en parler.
Vous avez des chiffres précis?
Mais les chiffres, ils sont complètement édifiants. Je veux dire, à Nice, par exemple, il faut en moyenne 231 jours pour obtenir un rendez-vous avec un généraliste. 350...
Dans la campagne niçoise?
Non, dans la ville
dans
de
la
Nice.
Ville.
Dans la ville de Nice, pas la campagne. On parle de Nice.
D'accord.
356 jours pour un rendez-vous avec un gynécologue à Albi. Aucun rendez-vous possible pour un pédiatre à Évreux, à Châteauroux. Aucune disponibilité pour un dermatologue à Saumur. Zéro place pour un ophtalmo à Sedan. Et Orléans gagne la palme du pire. C'est la pire situation médicale pour une ville de plus de 100 000 habitants. Ces chiffres sont sortis cette semaine dans le magazine Marianne. Ils font littéralement froid dans le dos.
À qui la faute?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Vous savez, il y avait le fameux numerus clausus. Qui limitait le nombre d'étudiants en médecine, qui a été supprimé par le gouvernement parce qu'on arrivait à des chiffres totalement fous. C'est-à-dire qu'entre 2012 et 2021, le nombre de médecins généralistes par habitant avait baissé de 7% en France. Et puis, il y a d'autres facteurs. Il y a les départs à la retraite des médecins baby-boomers qui ne sont pas forcément remplacés par les jeunes médecins. Et puis, il y a des jeunes diplômés qui n'ont pas envie de s'installer dans certaines zones, qui préfèrent monter des grands cabinets avec des connaissances dans des villes dites plus attrayantes. Mais ce n'est pas le seul problème. Malheureusement, il y a également un facteur sociologique. Vous savez que les étudiants en médecine viennent très rarement du milieu rural. Ce sont des gens qui viennent des villes et qui n'ont pas forcément envie de s'installer dans le milieu rural. Et puis, une autre chose très très bête, c'est que ce sont des études longues. Donc quand vous finissez vos études, vous êtes un jeune adulte, vous avez envie de fonder bien souvent une famille, vous l'avez déjà fondée, il est compliqué de s'installer dans une région où votre compagne ou votre compagnon ne peut pas trouver un travail. Tout ça pour vous dire qu'en région parisienne, on arrive à des situations complètement folles. Vous avez aujourd'hui, on a remplacé le tourisme par le tourisme médical. Des gens viennent à Paris non plus pour voir la Tour Eiffel.
Mais pour aller chez le médecin,
c'est quelque chose de plus possible. À Paris, nous avons un record de spécialistes, mais nous avons un déficit en généralistes,
alors,
par exemple.
Que faire?
Alors, on a plusieurs possibilités. Évidemment, il faut inciter le plus possible les étudiants du milieu rural à s'installer dans les études de médecine, ça on peut en penser, mais on ne pourra jamais, notamment complètement, repeupler les campagnes. L'autre solution, c'est évidemment la transition numérique. Ça, on en parle, ça touche tous les corps de métier. La France est en retard. On a vu, avec le début de la crise Covid, les consultations médicales par caméra fonctionnaient. Il faut les multiplier. Et puis, il y a une chose très, très importante. Il y a un chantier encore plus gigantesque, c'est suivre l'exemple allemand, transformer la médecine en une industrie. C'est-à-dire qu'on va supprimer les petits cabinets qui sont un petit peu dissimés partout pour faire des zones industrielles énormes avec un passage obligé pour les gens de certains départements, de certaines régions, parce que ces départements et certaines régions auront plus d'autonomie. Et surtout, il faut harmoniser absolument les honoraires. Il n'est pas normal qu'un pédiatre gagne beaucoup, beaucoup moins sa vie qu'un ophtalmo. Vous savez qu'à cause de cela, on n'a que 300 pédiatres par an qui sortent des écoles. C'est pas possible. Donc, je résume. Numérisation, très importante, et surtout, refonte totale du système de la petite médecine de ville décimée partout, à gauche, à droite. C'est fini. Il faut que les départements et les régions décident d'ouvrir de grands centres.
Merci beaucoup, Mathieu Alterman, pour ce point complet sur nos déserts médicaux. C'est vrai que les chiffres sont effrayant, littéralement. Dans quelques instants, vous retrouvez Jean-Pierre Alcabache, son invité. Tiens, ce matin, Philippe Juvin, il est médecin, hein, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, également candidat, bien sûr, à la primaire des Républicains et maire de la Garenne-Colombes.
Philippe Juvin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, que vous êtes maire de la Garenne-Colombes et que vous êtes candidat aussi à l'investiture de la droite républicaine pour l'Élysée. Il n'y a plus de primaire, mais un congrès. Ce matin, est-ce que vous dites que vous maintenez ou que vous sortez ?
Est-ce que vous poseriez cette question à Valérie Pécresse ou Michel Barnier ?
Oui, mais eux, ils existent dans les sondages. Vous êtes inconnus et on ne sait pas qui vous êtes et votre projet. Et
vous voyez, il y a 20 ou 25% des gens qui vont voter. Il y a un moment où il faut se poser la question pourquoi. Moi, ce que je crois, c'est que les parcours... Je n'ai pas été ministre il y a 15 ans. Vous avez raison. Ça, vous avez raison. Et c'est probablement aussi ça qui est l'intéressant.
Non, mais je vais vous poser une question claire. Est-ce que vous vous maintenez ?
Oui, mais bien entendu. Pourquoi je ne me maintiendrai pas ?
C'est-à-dire le congrès où chacun va exposer ce qu'il est.
Bien sûr. Mais... va proposer des solutions.
Oui, mais ce congrès, c'est une primaire avec un faux nez.
Ah non, mais je vais vous dire, si vous voulez me faire dire que j'aurais préféré une primaire ouverte, j'aurais préféré une primaire ouverte.
Ouais. Oui, mais là...
c'est une primaire qui est malheureusement fermée. C'est dommage, on sera bougri, mais on fait comme on peut.
Et comment la droite devrait-elle désigner son candidat unique ?
Ah bah, de toute façon, que les choses soient claires. Hein. Si on a deux candidats, on est cuit. Si on continue à se regarder le nombril comme on le fait aujourd'hui, on a perdu. Et si on n'est pas capable rapidement de mettre sur la table des idées et qu'on en est à la bataille d'ego, on a perdu.
Mais vous faites partie de la bataille des égos.
Mais moi, je veux justement en sortir, mettre des propositions sur la table. La droite a un message à faire passer. Jamais le pays a été sociologiquement aussi à droite. Et nous sommes en train de créer les conditions, de perdre. C'est quand même incroyable.
D'accord. Mais est-ce que vous êtes prêt, vous qui défendez l'intérêt national, l'intérêt général, à vous sacrifier, à sacrifier votre ego, vous, et à leur donner l'exemple à ceux qui ne servent pas, sinon de l'agitation.
Je serai toujours pour l'union. Je serai toujours pour l'union. Je serai toujours pour des propositions. Et je ne m'abîmerai pas dans des querelles d'ego. Je ne m'abîmerai pas dans des querelles d'ego.
Vous êtes en plein dedans.
Non. Mais pas, être non. Candidat, pardon. En démocratie, être candidat, ce n'est pas un scandale. Donc moi, je suis candidat. Ensuite, j'irai à l'union, forcément.
Xavier Bertrand, lors des régionales, avait promis, s'il se présentait devant les électeurs et qu'il réussissait, à se présenter aux élections présidentielles. Et maintenant, il demande le soutien de sa famille politique. Et il refuse un congrès piège. Est-ce que là, il ne faut pas lui donner raison ou lui donner tort ?
Le congrès, ça a deux intérêts. Un, désigner un candidat ou une candidate. Ça peut être Xavier Bertrand, ça peut être d'autres. Mais aussi mettre sur la table des idées. Et si on n'a pas ce débat entre candidats différents, on se prive du débat d'idées. Or, les Français veulent un débat d'idées.
Alors ce matin, est-ce que vous demandez à votre parti de réunir bientôt pour choisir plus vite et plus nettement votre candidat ? Parce qu'attendre 2 mois, est-ce que ce n'est pas un suicide collectif ?
Non, ça dépend ce qu'on fait de ces 2 mois. Si pendant ces 2 mois, on s'envoie des pics les uns les autres, oui, ça c'est un suicide, vous avez raison. Si pendant ces 2 mois, au contraire, on met en avant des idées qui sont potentiellement des idées différentes, on débat, eh bien c'est fructueux. Regardez les écologistes, tout le monde s'est moqué d'eux. Finalement, leur primaire a été très bénéfique. Il y a eu du vrai débat d'idées, moi je veux ça.
Et en quoi, si vous me permettez, l'intervention auprès de patients dans les salles d'opération vous prépare à la fonction suprême, la présidence de la République.
Parce
en quoi
que je vois, moi, depuis des années, ce qu'est la souffrance des gens. Je vois, je connais les préoccupations des Français. Je vois les effets de la paupérisation du pays. Je vois la disparition de l'hôpital public. Je vois qu'en France, aujourd'hui, on ne peut pas avoir facilement un médecin. Il y a eu un reportage juste avant nous, il y a 5 minutes, sur cette chaîne. On a vu que la France était pleine de déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les déserts médicaux? Ça, ça fait partie des sujets.
Mais alors pourquoi vous préférez la politique à la médecine?
Non, je ne préfère pas les deux.
Vous seriez peut-être plus utile pour la médecine.
D'une certaine manière, j'ai toujours dit que j'étais probablement meilleur maire parce que j'étais médecin et meilleur médecin parce que j'étais maire. Oui. On s'occupe des gens.
Donc vous êtes macroniste, vous faites tout en même temps. Comment vous situez-vous devant la dynamique d'Éric Zemmour, vous?
Écoutez, moi, on est le 3 octobre. Le 3 octobre, c'est la date de promulgation et de signature par le maréchal Pétain de la loi sur l'exclusion des Juifs de la société française. 3 octobre, c'est aujourd'hui. Éric Zemmour a raconté que le maréchal Pétain avait défendu les Juifs. Ben, ça suffit à le disqualifier.
Les Juifs français, il dit.
Et alors, un homme, c'est un homme? C'est quoi cette histoire? Effectivement, j'entends cette petite musique qui dira « mais finalement, le maréchal Pétain avait protégé une partie de la population ». Non, pardon, le maréchal Pétain, c'est celui qui a envoyé à Drancy des femmes et des enfants à la mort. C'est
donc,
ça la réalité.
Donc, vous préférez le général de Gaulle à Pétain?
Mais évidemment, en fait…
On est en train de réécrire l'histoire.
Mais je vais vous dire, pourquoi Zemmour monte-t-il? Parce que nous sommes absents. Nous sommes absents du débat. On n'arrête pas de se disputer, de se chamailler comme des sous-chefs de bureau.
Il y a même des sous-chefs de bureau qui ne se disputent pas.
Sous-chefs de bureau qui, en l'occurrence, ils se disputent. Et ce n'est pas bon.
Est-ce que vous... Enfin, on voit bien que les Républicains, vos amis, là, s'agitent comme des boulins à vent contre lui, mais ça n'a pas d'autre effet que de le renforcer. Oui. Mais est-ce que vous comprenez que des Républicains, aujourd'hui, soient séduits par ce qu'incarne Éric Zemmour?
Non, mais s'il s'agit de dire que l'école, ça ne va pas, que la désindustrialisation est un fait, qu'il y a une paupérisation des services publics, je suis le premier à le dire. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce que derrière, vous avez des solutions? Moi, je n'ai pas de solution. Si la solution, ça consiste à dire à une partie des Français qui ne seront jamais Français parce qu'ils s'appellent Rachid ou Fatima, eh bien non, moi, je ne suis pas de cela.
Et sur quel point il y a des convergences entre vous et, par exemple, Zemmour et ce qu'il représente?
Il n'y a aucune convergence de solutions. Aucune convergence de solutions. Il y a un mur évident. La France, c'est quoi la France? C'est la volonté de vivre ensemble. Or, aujourd'hui, Zemmour explique que parce que vous êtes de culture musulmane, en fait, si vous êtes intégré, que vous voulez que vos enfants aient le meilleur, vous ne serez jamais totalement français. Ça, pardon, mais ce n'est pas possible.
Mais vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi il y a des gens de votre parti qui sont séduits par lui? Allez, il y a peut-être quelque chose.
La radicalité, ça séduit toujours. Évidemment, être radical, ça permet de ne pas répondre à la question de la solution. Mais c'est pour ça que ça séduit.
Entre la droite républicaine et l'extrême droite, est-ce qu'une jonction, même partielle, est possible?
Je ne le souhaite pas. Moi, je suis comme Jacques Chirac. Je pense qu'il y a deux camps. Il y a celui qui propose des solutions et qui croit que la République est universelle et celui qui pense qu'on peut la fractionner. En fait, d'une certaine manière, j'ai reproché à Emmanuel Macron durant ce quinquennat d'avoir fractionné les Français. Je reproche pareillement à Zemmour de le faire. La France n'admet pas le fractionnement de la
Mais,
nation.
Si vous me permettez, c'est une question qu'on peut poser à tous les Républicains. Oui. Comment il se fait que, après 10 ans, deux présidents de la République, François Hollande, Emmanuel Macron, vous n'avez ni programme, ni chef reconnu, ni leader reconnu?
Pour deux raisons. D'abord parce que...
Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 10 ans?
Justement parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas travaillé. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pardon, les parcours sont toujours les mêmes. On vous resserre les mêmes 10, 15 ans plus tard. C'est pour ça que je vous dis, vous me demandez quelle est ma place. Ma place, justement, c'est d'apporter l'idée d'un parcours qui est différent.
D'accord. Mais encore une fois, je vais vous dire que vous partez de pas loin de zéro.
Bien entendu. Hein?
Comment
bien
vous pouvez entendu. De zéro passer à l'Élysée?
Eh bien, comment je fais?
En quelques mois.
Eh bien, justement, grâce à ces 2 mois de débat, c'est pour ça que je veux qu'il y ait des débats entre nous et qu'on arrête de se regarder le nombril et de parler de procédure. Vous comprenez bien que les Français voient que la situation est catastrophique, que la France tombe tous les jours un peu. Bah, que proposons-nous? Aujourd'hui, on ne propose rien. Je veux proposer des choses.
Ouais, c'est facile de dire, quand on est dans l'opposition, non. Ça tombe, etc. Nous serons les sauveurs de la France.
Non, mais Jean-Marie Le Pen... Vous nous faites le ministère de la parole, là.
Comment?
Vous nous refaites, monsieur Mitterrand, vous êtes le ministère de la parole. Souvenez-vous de la fameuse phrase de Giscard. Le vrai sujet, c'est a-t-on des propositions? Vous parliez de déserts médicaux.
Mais attendez, vous l'avez dit. Pardon. Vous dites, a-t-on un programme? Nous n'avons pas de programme.
Oui.
Eh bien, même les pires critiques ne disent pas ce que vous dites. Vous n'avez rien. Regardez.
Nous avons. Non, les Républicains ont un programme, pardon, ils ont un programme. Depuis 2-3 ans, nous avons travaillé, nous avons eu des conventions, ce n'est pas vrai.
Mais alors, qu'est-ce qui vous distingue les uns les autres, puisque vous avez fait un programme du parti?
Non, le parti a toujours, dans toutes les élections présidentielles, le parti a eu un programme, et l'homme qui se présentait au présidentiel a eu son programme. Alors, il y a évidemment des conjonctions, mais un homme se présente devant la nation.
Jean-Marie Le Pen vient de dire que, peut-être qu'il perturbe le jeu politique dans son camp, selon lui, son ami Éric occupe le terrain que Marine Le Pen a quitté. Et il ajoute, si Éric est le candidat du camp national, le mieux placé, je le soutiendrai. Est-ce que ça vous tente?
Non, mais attendez, non, d'abord ça ne me tente pas, mais cette idée du camp national, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on serait mauvais français parce qu'on ne soutient pas Éric Zemmour? Moi, monsieur El Kabbach, je suis le seul des candidats à avoir porté l'uniforme de l'armée française en Afghanistan. J'ai pris des risques. L'idée du patriotisme, on ne me la fait pas. Je suis patriote, le sujet n'est pas
alors
là.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'à la manière de Jacques Chirac, vous dites non, définitivement, ou vous ne serez pas tenté à un moment donné, s'il continue à monter, d'aller tout doucement vous rallier vers lui? Vous trouvez des raisons d'aller se rallier?
Comment voulez-vous que je sois tenté par quelqu'un qui ne propose rien? Et quelqu'un qui vous explique encore une fois que le maréchal Pétain a défendu les Juifs. Enfin, on est devenu fou.
Oui, on l'a dit tout à l'heure.
Mais c'est vrai, il faut le redire.
Pendant les grandes heures, les heures graves de la pandémie, quand tant de patients étaient en réanimation, qu'ils souffraient, je vous regardais, vous alliez d'une télé à l'autre. Et je me demandais comment il fait. Est-ce qu'il ne serait pas mieux dans la salle d'opération?
Mais vous savez, moi je fais tout, je suis à l'hôpital, vous venez me voir et je vous accueillerai. Je crois que quand on est médecin, on a aussi un rôle d'information. Moi ce que j'ai voulu, c'est faire en sorte d'expliquer aux Français ce qui se passait. J'ai essayé de ne pas trop me tromper. Quand je me suis trompé, je l'ai dit.
J'ai retenu en lisant votre dossier deux choses.
Mon rôle, c'était aussi d'expliquer.
Le 6 mars, vous avez dit, le président de la République annonce que l'épidémie est inexorable. Et sur LCI, vous répondez presque le même soir, commençons par relativiser, pas de panique. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui?
Ah oui, j'ai toujours dit pas de panique. Ouais. Je pense que la panique, c'est la pire des choses dans une crise.
D'accord, mais il ne s'agissait pas de panique, mais d'agir.
Bien sûr.
Mais le 23 mars, sur France Info, vous dites, il faut produire très massivement de la chloroquine utilisée à Marseille. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui?
À l'époque, pardon, je vous l'explique, à l'époque, on ne savait pas si ça fonctionnait. Et j'ai dit, alors que nous n'avions rien, aucun masque, rien du tout, au moins ne soyons pas en rupture de stock de chloroquine.
Mais est-ce que vous le diriez aujourd'hui?
Évidemment que non. On a vu quelques semaines plus tard que ça ne marchait pas. Mais à l'époque, pardon, c'est facile de refaire l'histoire. On ne savait pas.
Vous faites la critique pour beaucoup d'autres.
Non, mais on ne savait pas. On ne savait pas si ça marchait. Et je vous disais qu'à l'époque, il fallait en préparer au cas où. C'est ça que je disais. Je n'ai jamais dit que ça fonctionnait. Jamais.
Mais est-ce que quelquefois vous avez dit, vous avez alerté avant, au début de la crise?
Bien sûr.
Vous avez alerté, vous avez anticipé, vous avez dit attention au gouvernement ou à l'État ou aux citoyens, il y a une épidémie qui arrive, une pandémie qui arrive.
Mais bien sûr, d'abord je l'ai fait, je me suis trompé aussi. Par exemple, en février, quand on voyait les Italiens sous l'eau, je me disais au fond, ça ne va jamais nous arriver. Ça, je me suis trompé, mais je l'ai reconnu. La question n'est pas de se tromper ou pas. La question, c'est de reconnaître quand on a fait une erreur.
Et donc vous dites que vous êtes beaucoup trompé.
Je me suis trompé, probablement moins que d'autres, mais je l'ai reconnu et c'est la grande différence. Mais
alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne trompez pas aussi dans vos analyses?
Je ne sais pas.
Dans 6 mois, vous direz, là aussi, je me suis trompé.
Mais je ne sais pas, l'avenir le dira. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'épidémie, il y a des tas de choses qui ne sont pas réglées. On a des gens qui sont dans la nature, qui n'ont pas été traités, par exemple, de leur cancer, et qui sont dans la nature. Il faut aller les chercher. Ça, je ne crois pas me tromper.
Un mot. Jeudi, le président de la République a reçu à l'Élysée une vingtaine de jeunes dont les grands-parents se sont affrontés lors de la guerre d'Algérie. Et il leur a dit, vous êtes une projection de la France, votre identité est une addition à la citoyenneté française, c'est d'une chance inouïe. Est-ce que vous pensez que c'est une chance?
Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Vous savez, on est noyé sous ses paroles. Moi, je me souviens qu'il avait dit que la colonisation de l'Algérie par la France avait été un crime.
Oui, mais après, il a corrigé, il a dit, enfin, il n'a pas dit pardon, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Un système politique des Algériens, du régime actuel, un système politique qui s'est construit sur cette rente, ça n'a pas plu à l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur. Là, vous dites qu'il avait raison de le dire
S'il veut dire que le régime algérien n'est pas un régime démocratique, oui, il a raison de le dire.
Ouais. Monsieur Juvin, ou docteur Juvin, ou monsieur le maire, Philippe Juvin, en juillet, est-ce que vous serez à l'Élysée ou à l'hôpital?
Vous verrez, il faudra demander aux Français. En tout cas, si je suis à l'Élysée, j'apporterai des solutions qui aujourd'hui ne sont pas sur la table.
Ouais, c'est toujours ce qu'on dit. Merci d'être venu.
C'est aussi ce qu'on veut faire.
Merci d'être venu et bon dimanche.
Merci beaucoup Jean-Pierre Alcabache. Bon dimanche à vous
et
également.
À Robert,
et bon dimanche.
À 17h, je recevrai Agnès Buzyn, puis un autre thème qui passe pour beaucoup de gens comme un scandale. Mais on le verra tout à l'heure.
Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis dans cette matinale week-end CNews Europe 1. Et surtout, profitez bien de votre dimanche.